Donc on va faire, on va continuer Bezrat Hashem, notre, on va continuer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur la Teshuva. Donc c'est un cours qui est hors piste, hein, parce que normalement, on étudie les lettres de l'Admor Hazaken, qui sont bien plus tard. Igaret Teshuva, on l'a déjà étudié, ça fait 3 ans, enfin 2 ans. Mais comme on se trouve dans la période de la Teshuva, la semaine dernière c'était juste avant Rosh Hashanah, cette semaine on est juste avant Yom Kippour. Donc c'est le moment pour nous de nous rappeler les bases de la Teshuva. Alors je rappellerai juste rapidement ce qu'on a expliqué la semaine dernière, en quelques mots. On a expliqué que les gens font l'amalgame, beaucoup de gens pensent que la Teshuva est égale le jeûne. Pourquoi les gens pensent comme ça? Oui, dans la tête de beaucoup de personnes, la Teshuva c'est synonyme de jeûne. Pour faire Teshuva, il faut jeûner. Pourquoi les gens pensent comme ça? Parce que dans la tête des gens, ils savent que le jour qui est dédié à la Teshuva, c'est le jour de Yom Kippour. Et Kippour, on jeûne. Donc les gens se disent, ça veut dire que celui qui veut faire Teshuva, il doit jeûner. Alors qu'en vérité, c'est une erreur. Parce que la Teshuva n'est pas du tout liée au jeûne. Comme on a expliqué longuement la semaine dernière, le jeûne, c'est seulement un moyen pour nous aider à mieux faire Teshuva. Comme maintenant, quand il y a Kippour qui va arriver, on va moins donner de place à notre corps, on va moins donner de place au plaisir de notre corps, à la nourriture de notre corps. Donc automatiquement, ce qui va se passer... Ah, Baruch Haba. Merci. T'as vu avec David? T'as vu avec David?
Non, David, il arrive.
Non, hein,
il est parti chez lui, il revient.
Tu as fait l'écoute?
Oui, il a prié avec nous.
Quand?
Il était là pour une frappe.
Ce matin?
Mais non, non.
Tu reviens de vacances?
7h30, il
était là. T'as dit tout ça d'Israël? Regarde.
Ça te va,
Baruch Hashem. Alors, on a expliqué la semaine dernière que beaucoup de gens pensent que la Teshuva, c'est synonyme de jeûne. On a expliqué faux. La Teshuva, c'est pas les jeûnes. Beaucoup de gens pensent que la Teshuva, c'est un processus d'une vie et c'est un processus qui est très très compliqué à faire, que très peu de personnes peuvent faire. Réponse qu'on a expliqué la semaine dernière, dans le premier chapitre de Yigaret Teshuva, encore une fois, faux. On a dit la Teshuva, c'est pas du tout compliqué à faire. C'est la décision d'un seul instant. Comme on voit dans plusieurs versets, les versets qu'on a vus dans les tefillot de Rosh Hashanah, dans les tefillot de Yom Kippour, le verset qu'on a vu dans l'Haftara de Shabbat, qu'on verra dans l'Haftara de Yom Kippour aussi, on voit qu'à chaque fois, il y a une notion qui revient constamment, c'est que c'est quoi le Baal Teshuva? C'est celui qui décide d'abandonner son derrière. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie, il y a un clic, d'accord, il y a un déclic, et tu décides, tu dis, il faut que je change de chemin. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire tout de suite, et ça ne veut pas dire que le changement va être radical tout de suite, ça va prendre du temps. Mais quand on prendra du recul, on verra que le changement a commencé à partir de ce moment dans lequel il y a eu ce fameux déclic qui a dit que ça y est, dorénavant, je vais changer mon derrière, je vais changer mon chemin. T'as amené les chaim, j'espère?
Non. Ah.
C'est une prise de con, ça.
T'as oublié les bottes de musique en Israël?
Il a préparé des trucs dans la cuisine.
Mendy, c'est une prise de con.
David, il a préparé des trucs, ils sont dans la cuisine.
Ils sont dans la cuisine et dans le frigo, je crois.
Comment chez les thunes là-bas, ils font pas des chaim?
Il va arriver.
Ouais,
d'accord,
on va.
Donc on a expliqué que la Teshuva, ce n'est pas quelque chose qui est lié au jeûne, c'est pas quelque chose qui est un processus qui est compliqué. Comme on a expliqué la semaine dernière, en un instant, un rachat absolu peut passer à la phase de Tzadik Gamour. Ça veut dire il suffit qu'en un instant, il a dit dorénavant, je vais devenir quelqu'un de nouveau, c'est fini, il a fait Teshuva. Alors que d'un autre côté, si vous avez une personne qui fait plusieurs avérotes, et qui décide le jour de Yom Kippour, il dit bon, sur les 15 avérotes que je fais, j'en arrête 14, mais une je la garde.
Elle est très bonne, celle-là.
D'accord? C'est possible. Il dit, celle-là je la garde, la vérité. Bon, Dieu, je t'ai donné 14 sur 15, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, ça ne s'appelle pas la Teshuva. Pourquoi ça ne s'appelle pas la Teshuva? Ça s'appelle pas la Teshuva parce que la Teshuva, c'est pas quelque chose que je décide d'arrêter une avéra spécifique. Non. C'est je décide de manière générale de changer mon derrière et que dorénavant je ne manquerai plus de respect à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le fameux exemple qu'on a donné la semaine dernière. C'est comme si, imaginez-vous, quelqu'un qui dit une remarque désobligeante à quelqu'un d'autre. Il insulte. Après, il excuse, il s'excuse, il vient le voir, il dit, excuse-moi, je te dirai plus jamais ce mot.
Ça, c'est quoi ça?
Ça veut rien dire. Quand tu fais tes chouvas, c'est-à-dire tu dis, je dirai plus de gros mots tout court. Je te manquerai plus de respect tout court. C'est la même chose quand on fait teshuva par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ensuite, on a terminé la semaine dernière, on a expliqué que, néanmoins, bien que la teshuva ce n'est pas les jeûnes, on voit qu'à l'époque de la Gemara, avant la Gemara, il y avait les korbanot, les sacrifices. À quoi servaient les sacrifices? Les sacrifices, c'était comme le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, tu l'amènes pas pour t'excuser. Parce que si tu amènes un bouquet de fleurs pour t'excuser, tu vas te le prendre à la figure. On est d'accord? Tu as blessé quelqu'un, et tu viens le voir comme une fleur avec ton bouquet de fleurs. Tu vas te le prendre à la figure, ton bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs peut venir seulement en complément des excuses. Une fois que tu t'es excusé, mais que tu sens que les choses ne sont pas comme avant. Tu sens que l'autre t'a dit, bon, je t'excuse, mais tu sens qu'il y a un blocage. Alors tu l'amènes un bouquet de fleurs pour essayer de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. Alors, il a expliqué, il a dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on offrait le korban. Mais le korban, c'est pas la teshuva. À quoi servait le korban? C'était comme un bouquet de fleurs. Non. L'expiation des fautes n'est pas le korban.
Ah bon?
Ah oui. L'expiation des fautes, c'est la teshuva. C'est la décision du juif qui décide, je ne recommencerai plus.
Mais quand il y avait le...
Non, c'est pas ça le korban. Alors à quoi sert le korban? À quoi sert le sacrifice? Bonsoir.
Alors là, je comprends plus rien.
Ah justement. Allez, on s'installe. On a des revenants. Teshuva, c'est le retour.
Alors.
Voilà, on a dit Teshuva, le retour.
On doit laisser sa femme là-bas, il y a
je crois qu'on a plus de chances d'aller le rejoindre que de lui revenir.
Amen.
Oui. Amen. Il est là, David, ou pas? David?
Il est dans la cuisine.
Bon, on fait une petite pause, on va dire les Chaïm.
Ouais.
Pour enclencher la machine.
Amen.
On a expliqué la semaine dernière, je reprends rapidement. On a expliqué la semaine dernière que la teshuva n'est pas quelque chose qui dure longtemps. La teshuva, c'est la décision d'un instant. Ça veut dire qu'il suffit que pendant un instant de Rosh Hashanah ou Yom Kippour, ou même pendant toute l'année, j'ai une pensée et que je me dis, ça y est, ça suffit les bêtises. Dorénavant, je vais essayer de bien me comporter, je vais changer de chemin. À ce moment-là, à cet instant-là, je viens de passer du statut de Racha ou Benoni ou ce que j'étais, je viens de passer au statut de Tzadik. Ça, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la décision d'un instant. C'est tout. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Donc, la Teshuvah, c'est la décision d'un instant. Un seul instant. Alors, comment ça se fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de, choses autour de la Teshuvah? Comme les jeûnes, comme la Tzedaka, etc. Alors ça, on a expliqué. Je me suis pas arrêté dessus la semaine dernière. On va expliquer maintenant. Qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas la Teshuvah, mais qui viennent en complément de la Teshuvah, pour parfaire la Teshuvah. L'exemple qu'on a donné, c'est l'exemple de la Gemara dans le traité Svarim. C'est comme une personne qui a manqué de respect à un roi, et le roi veut le tuer. Le roi veut le tuer. Après, il va aller chercher un conseiller du roi, et le conseiller du roi va réussir à tempérer et à faire en sorte que le roi va annuler le décret. Bon, le roi va annuler le décret, mais il veut plus le voir, cette personne-là. Il dit, j'annule le décret, il n'y a pas de problème, je te tue pas, mais je veux pas te voir en peinture. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un cadeau au roi. Pourquoi il envoie un cadeau au roi? Parce qu'il dit, je sais que concrètement, vous allez pas me tuer, que vous allez rien me faire, mais moi, j'aimerais que les choses redeviennent comme avant. J'aimerais que je puisse me présenter devant vous et vous voir comme avant. Alors il va envoyer un cadeau. Dit la Gemara que ce cadeau-là, c'est comparé au korban. Les gens pensent qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on offrait un korban et que le korban, c'est la teshuvah. Le sacrifice, c'est la teshuvah. Réponse de la Gemara dans Traité Svarim, la Gemara dit faux. Le korban n'a jamais été une kapara. Le korban n'est pas la kapara. Les kaparas ne sont pas la kapara. Il n'y a rien de tout ça, les kaparas. La kapara, le pardon, c'est la teshuvah. C'est la décision du juif de décider de ne plus recommencer et de changer son derrière. Ça veut dire qu'une personne peut amener tous les korbanot au monde. S'il n'a pas fait teshuva, ça vaut rien. On sait que dans les haftarot, dans l'haftarot des semaines qu'il y avait avant Tisha B'Av, là-bas, il y avait une haftara dans laquelle Akadosh Baruch Hu disait vos sacrifices sentent mauvais. Pourquoi ils sentent mauvais? Parce que un sacrifice tout seul ne sert à rien. Le sacrifice peut venir seulement une fois qu'il y a déjà eu la teshuva, que la personne a déjà décidé d'améliorer son comportement, mais que Dieu lui a pardonné parce qu'il a fait teshuva, mais qu'il est conscient que sa neshama n'est pas à l'aise avec Akadosh Baruch Hu comme avant. Alors il va amener un bouquet de fleurs. C'est quoi le bouquet de fleurs? Le bouquet de fleurs, c'est le korban, c'est le sacrifice. Donc le sacrifice, c'est un complément. C'est un complément. D'accord?
Il apporte rien de plus, alors.
Si, il apporte un complément. Il apporte le, c'est pour ça que dans tous les korbanotes, on rajoute le terme l'eratson. On dit que le but, dans la parasha Vaikra, la parasha Tzav, un terme qui revient très souvent, c'est que le but du korban, c'est qu'un juif soit accepté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. L'eratson. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens, qui vont te blesser, d'accord. Tu vas les excuser, ouais. Mais tu veux plus les voir. Tu dis, écoute, je t'excuse, mais tu me laisses tranquille maintenant, d'accord? Je t'excuse, mais je vais plus te voir. Écoute, je t'en prie, tu restes où tu es, je reste où je suis, il y a pas de problème. Je t'excuse, mais au revoir. Au revoir et pas à bientôt.
Mais c'est pas
d'accord. Ça, parce que justement, je t'ai excusé, mais j'ai pas envie que ça recommence. J'ai pas envie de prendre des risques.
C'est pas le vrai pardon.
Si, ça peut être un vrai pardon. Pourquoi ?
C'est pas un vrai pardon.
Pourquoi ?
C'est un pardon. C'est un pardon.
Il y a quelqu'un qui t'a blessé. Tu lui dis, écoute, je t'excuse pour ce que tu as fait. Je comprends que tu t'es laissé, mais je veux pas que ça recommence.
Mais tu l'as toujours sur le cœur alors.
Non, t'as pas sur le cœur. T'as pas envie que ça se reproduise. Alors tu dis, écoute, tu restes où tu es, je reste où je suis. On est excusé, y a pas de problème. On reste où on est. Je l'ai excusé. Mais même si tu vas continuer peut-être à parler avec lui, mais il y a un certain blocage. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a eu une brisure. Les choses ne sont plus comme avant. Eh ben oui, c'est plus comme avant. Quand il y a une brisure, les choses ne sont plus comme avant. C'est là que vient le cadeau. Le cadeau ne vient pas pour s'excuser, comme on l'a dit tout à l'heure. Celui qui vient pour s'excuser avec un cadeau, il prend le cadeau à la figure.
Ça dépend du cadeau.
D'accord, mais non, ça marche pas comme ça. Quand t'es vraiment fâché, ça marche pas.
Ça dépend avec qui, hein.
À quoi sert le cadeau? Le cadeau va servir seulement en tant que complément à la teshuva. Donc le korban était un complément à la teshuva. Ensuite, on avait expliqué, ça on l'a fait expliquer la semaine dernière, que une fois qu'on a perdu le Beth Amikdash, et donc du coup on n'a plus la possibilité d'amener des korbanotes pour parfaire, pour rendre notre teshuva plus parfaite, alors avec le temps, ces korbanotes, ces sacrifices ont été remplacés par les jeunes. Les jeunes. Attendez, soit. Par les jeunes. C'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, on voit qu'on jeûnait énormément. On voit que les Chachamim à l'époque de la Gemara jeûnaient énormément. Pour chaque petite chose, ils jeûnaient des nombres de jeûnes énormes. Par exemple, on avait expliqué que celui qui s'énervait, il jeûnait 73 jeûnes.
Ah, hein. Mais il meurt, comment il fait ?
D'accord, 73 jeunes. Alors,
il y a des techniques,
En quoi, c'est quoi ?
Un cadeau,
c'est un cadeau de jeûne.
Qui a dit c'est un cadeau ? C'est pas un cadeau.
Mais
parce que, non, c'est pas un cadeau. Le jeûne, c'est que, on explique que quand je vais jeûner, je vais sacrifier ma graisse. Parce que le fait de pas manger, je vais sacrifier du sang et de la graisse. Donc c'est un petit peu comme la même dynamique que le sacrifice, dans laquelle on sacrifie des graisses et du sang. D'accord, c'est pas la même chose, mais c'est la même dynamique. De manière générale, c'est-à-dire, j'ai sacrifié quelque chose. Quand tu as jeûné, tu as sacrifié un désir. J'ai un désir de manger, de boire. J'ai sacrifié ce désir pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'à l'époque de la Gemara, les Rachamim ont remplacé les sacrifices par des jeûnes. Donc, il y avait une série de jeûnes qu'on faisait pour plusieurs avérantes.
Le cadeau, on a dit, c'est quoi?
Le cadeau, c'était à l'époque le sacrifice. Une fois que le Beth Amikdash était détruit et qu'on n'a plus de korbanot, ça a été remplacé par
les jeunes.
Maintenant, après, avec le temps, les Chamus se sont rendus compte que les gens ne pouvaient plus jeûner tellement et que c'est impossible, même si on jeûnait tous les jours de notre vie, c'est impossible de jeûner tout ça avec toute la vérote qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chamim? Ça, c'est déjà à l'époque du Harizal. Ils ont dit, dans ce cas-là, on va remplacer ça par la Tzedaka. Pourquoi? Parce que la Tzedaka, c'est aussi un sacrifice. C'est la même dynamique. Qu'est-ce que je donne quand je donne la Tzedaka? Je donne l'argent que j'ai gagné. Comment j'ai gagné cet argent? Grâce à la sueur de mon front. Ouais. Donc quand je vais donner de l'argent, je suis en train de donner de la sueur de mon front. Donc quelque part, je suis en train de faire un sacrifice. C'est à peu près pareil. Quand on réfléchit, le sacrifice, le jeûne et la tzedaka, c'est la même dynamique. C'est que je sacrifie quelque chose. Je donne quelque chose. Je donne quelque chose que j'aurais pu utiliser pour mes propres besoins. Donc ça a été remplacé par la tzedaka. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, après, il y a toute une technique halakhique qu'il a expliqué, mais ça, j'aurai pas le temps de la développer. Parce qu'il y a des nombres de jeunes. Par exemple, il avait donné des nombres de jeunes énormes qui sont ramenés selon le Harizal. Comme, par exemple, celui qui a fait couler de la semence en vin. Alors, le Harizal, il dit, il devra jeûner 84 jeunes. Parfois.
Exprès ou pas exprès?
D'accord? Peu importe. Il dort. Alors, si c'est volontaire, un volontaire, c'est encore autre chose.
84 jeunes. La nuit, il mange.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est un méga ramadan.
Trois fois ramadan.
C'est impossible. C'est impossible de tenir tout ça.
Pourquoi peu importe?
Peu importe quoi?
Je t'ai dit exprès ou pas exprès, tu m'as dit peu importe.
Non, parce que le Harizal n'a pas fait la différence.
Pourquoi?
Il n'a pas expliqué la différence. Il a dit Motsi Zera Levatala. D'accord? Il n'a pas expliqué la différence si c'est volontaire ou involontaire. Disons que c'est volontaire. Ça ne change pas que quand même, c'est quelque chose que, juste cet avéra là par exemple, parce qu'il donne cet exemple ici dans le chapitre 3, c'est quelque chose qui peut arriver très souvent et que si une personne devrait jeûner pour ça, ou pour la colère, ou pour les autres avérotes qu'il donne, ou pour le fait de d'avoir oublié un kriyat shema, ou pour le fait d'avoir oublié des choses comme ça, on jeûnerait toute notre vie. Mais encore une fois, c'est pas la teshuva. La teshuva, je peux la faire en un instant. Mais je sens que la neshama a un blocage avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme avant. Alors, je veux parfaire la teshuva. À l'époque, c'était les korbanot. Après, ça a été remplacé par, on a dit, les jeunes. Et après, ça a été remplacé par la tzedaka.
Une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on est sûr d'être agréé?
De toutes les façons, on est agréé. De toutes les façons, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, il te mentionnera pas du tout la vera que tu as fait. Mais des fois, on peut sentir qu'il y a un blocage. On sent des fois que la neshama, elle arrive pas à être à l'aise avec la Torah comme elle était avant. On sent qu'il y a un blocage avec le spirituel.
Mais alors, est-ce que en faisant les, enfin, d'aujourd'hui, c'est le comment ça s'appelle, la tzedaka.
Oui.
Est-ce qu'on enlève, on est sûr d'avoir enlevé le blocage ou non?
Alors le problème, c'est qu'il a donné des sommes énormes de tzedaka. Parce que la tzedaka.
Donc on les a, c'est ça.
Putain, je t'expliquais. La tzedaka, c'est l'équivalent des jeunes. Et c'est, il y a un équivalent, c'est-à-dire la valeur d'un jeûne. D'accord? Donc ça a été évalué à peu près aux alentours de 5 euros. 5 euros, c'est la valeur moyenne, en tout cas, d'un repas de l'époque. C'est comme ça que c'est. D'accord? Il faudrait l'estimer. C'est estimé par rapport à l'argent. Donc, on va imaginer que c'est 5 euros. D'accord? Peut-être plus. Donc si on te dit, par exemple, qu'une personne qui s'énerve, il doit payer, on a dit, 73 jeûnes. Donc dans ce cas-là, d'accord? Tu fais 73 fois 5. Et là, avec ça, j'ai compté le repas à 5 euros. Donc imagine-toi, le gars il s'est énervé, déjà il est verrouillé pour un an et demi. Donc c'est impossible. Le rabbi une fois dans un Fabringen, il a dit qu'aucun juif au monde a assez d'argent pour payer toutes les avérotes qu'il fait. Alors comment on fait? Alors on est obligé de dire que Akadosh Baruch Hu il a pensé à une génération comme la nôtre. Et une génération comme la nôtre, le fait même qu'on étudie les lois de la Teshuva, comme dit la Gemara, le fait même d'étudier les lois des sacrifices, c'est comme si on avait offert un sacrifice. Donc aujourd'hui, le fait même qu'on est présent à un cours de Tanya, dans lequel on parle de la Teshuva, ça même c'est déjà la Teshuva.
Et qui voit 1200 jeunes.
Ah ouais. D'accord, bien sûr, on est obligé. C'est impossible de payer sinon. Il faut donner la Tzedaka, j'ai pas dit qu'il faut pas donner. Mais on pourra jamais aller à terme, c'est impossible.
Donc on a un avoir là maintenant, c'est ça?
Non, pas du tout.
Non, on fait tout rembourser.
On est en train de rembourser. Ça c'est l'aspect, on va dire, technique de la Teshuva. L'aspect technique de la Teshuva, qui dit que la Teshuva, c'est la décision, on a dit, de combien de temps? Rabotai. D'un instant. Mais, pour parfaire la Teshuva, on a les jeûnes, on a les sacrifices, on a la Tzedaka. Ça c'est pour parfaire la Teshuva. D'accord. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu plus profondément, selon le Zohar, qu'est-ce que c'est la Teshuva. En vérité, pour expliquer ce que c'est la Teshuva, l'Admour Hazaken ici va devoir revenir à la création du monde. Écoutez bien, ça va être très intéressant. Pour moi, c'est ce chapitre-là qu'on va faire, le chapitre 4, page 186. C'est un des chapitres les plus intéressants du Tanya, vraiment. Parce que c'est une idée qui est très puissante. Une idée qui est très puissante. Qu'est-ce qu'on va expliquer dans ce chapitre? Ce qu'il a expliqué, c'est qu'en vérité, pour comprendre pourquoi on doit faire Teshuva et comment marche la Teshuva, comment fonctionne la Teshuva, il faut d'abord comprendre, je fais Teshuva sur quoi? Sur une Avera. Pourquoi une Avera, c'est grave? Pourquoi c'est grave de faire une Avera?
Parce qu'on a cassé un...
Ah, pour comprendre pourquoi une Avera, c'est grave, on va devoir revenir depuis la création du monde. Et on va expliquer comment, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé les Juifs différemment des autres. Et ça va être très très intéressant ce qu'il va expliquer aujourd'hui, parce qu'il va nous retracer l'histoire depuis la création du monde, il va nous montrer que depuis la création du monde, le Am Israël est différent. On attend beaucoup plus de nous, il va expliquer pourquoi. Et donc automatiquement, comme on attend beaucoup plus de nous, alors une avéra qu'un juif va faire est beaucoup plus grave qu'une avéra qu'un non-juif va faire. Pas parce qu'on est plus important, ou parce qu'on est plus riche, plus beau, non. Parce qu'on a été conçu différemment, et qu'on a beaucoup plus d'attentes de nous.
Même sur les commandements qui sont communs aux goy et aux juifs.
Même
sur les commandements qui sont communs.
Exactement.
Aussi, même de pas tuer.
Même sur les commandements qui sont communs. On a une responsabilité supérieure. On pourrait donner un exemple qu'on ramène dans un autre endroit, qu'un juif, c'est comme si tu ferais on avait donné une fois cet exemple. C'est comme si tu ferais la différence entre un vêtement, on va dire, un jean, et une chemise en soie. Que sur un vêtement en jean, même s'il y a une petite tache, c'est pas dérangeant. Pour que ce soit dérangeant, il faut qu'il y ait une grosse tache. Et là, ça va commencer à devenir dérangeant. Et sur un vêtement en soie, dès qu'il y a la moindre petite tâche, tout de suite, on a des attentes qui sont beaucoup plus élevées. Bah, c'est la même chose. Comme on va expliquer aujourd'hui, nous, le Ham Israël, nous sommes comme un vêtement de soie. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, dès le départ, il nous a conçus différemment. Donc, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que on est un vêtement en soie. Ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Mais d'un autre côté, la moindre petite tâche se voit tout de suite. Quand t'as un vêtement en soie, la moindre petite tâche, il y a une tâche. Alors que quand il y a un jean, dis bon, tu remarques même pas. Ça, c'est ce qu'il va expliquer aujourd'hui. Donc, on va devoir retracer depuis la création du monde. On va expliquer comment un juif est différent dès sa conception. Et donc, c'est pour ça que la avéra d'un juif est plus grave et que normalement, il n'y a aucune manière de faire teshuva. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce qui se passe quand un juif fait teshuva. On est d'accord? C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe quand on fait teshuva, il faut remonter depuis le début de la chaîne. Comprendre qu'est-ce que c'est un juif, pourquoi on fait les mitzvot, pourquoi on fait les averot, qu'est-ce qui se passe quand je fais une avéra et qu'est-ce qui se passe quand je fais teshuva sur la avéra. Si on remonte pas depuis le début, on peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire tes choix. Ok? Il y a des questions ou tout est clair? Je dis. Tout est clair? Ok.
Alors, c'est le Zohar qui enseigne ça?
Ah, c'est le Zohar, c'est pas son Zohar. Alors, on va commencer Ar Aïnyan Yuvan. Donc, je suis à la page 186. En bas de la page, 4 lignes avant la fin de la page. Le Chaim. T'as dit le Chaim David ou quoi?
Le Chaim.
Chaim et Lebracha. Alors, Ah, Chaim Yuvan, on va comprendre le sujet. Alpi Mashekatou, on va comprendre le sujet. Ça veut dire quoi? Quel sujet? On va comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva, on va devoir comprendre qu'est-ce que c'est une avera, qu'est-ce que c'est une mitzvah, pourquoi un juif est conçu différemment. Donc on revient depuis la création du monde. Alpi Mashekatuv, c'est écrit, Ki chelek Hashem amo. Dans la paracha Aazinu, qu'on vient de lire la semaine dernière, c'est écrit, Ki chelek Adonai amo, Yaakov revel nachalato. Le verset, il dit comme ça. Il dit que le peuple juif est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et que Yaakov est une corde qui est liée à Kadosh Baruch Hu. Donc on a deux termes qui sont assez bizarres dans ce passouk-là. Vous savez, la paracha Azinu est une paracha qui est très cryptée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de Rashi autour de ça. Rashi qui essaye, qui ramène les Midrashim pour essayer de nous expliquer qu'est-ce que veut dire cette paracha. Parce que c'est un poème dans lequel il y a beaucoup de secrets de la Torah qui se cachent. Dans ce verset est bizarre. Dans ce verset, on dit deux choses. On dit que Yaakov est une partie, Kichelek Hashem Amo, que le peuple juif est une partie de Dieu. Ça veut dire quoi une partie de Dieu? Est-ce que Dieu est matériel, physique? Ça veut dire quoi que c'est une partie de Dieu?
Parce qu'il y a la Neshama. Il y a une division.
Justement, ça veut dire que Dieu a priori est indivisible.
Non, ça veut dire que, en réalité, on est un être animé par une goutte de...
Ah, très bien, dans ce cas-là, c'est pas une partie. Dans ce cas-là, on dit que dans ce cas-là, on dit qu'un juif est kadosh, qu'un juif est très important. Mais le fait de dire qu'un juif est un morceau de Dieu, ça laisse entendre que Dieu a plusieurs morceaux. Donc il y a quelque chose qui, il y a un message qui veut nous faire passer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a un message. Quand on dit qu'un juif, que le peuple juif est un morceau de Dieu, c'est un terme qui est bizarre parce que Dieu n'est pas un morceau. Ça limite Hachem. Ça, c'est la première notion qu'on doit comprendre dans ce verset. Deuxième notion, on a comparé Yaakov, donc Israël, on l'a comparé à une corde. Une corde qui le relie à Kadosh Baruch Hu. Donc deux images qu'on voit dans ce passouk-là. Premièrement, que Israël est un morceau de Dieu. Deuxièmement, qu'Israël est relié avec une corde à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est que chaque mot de ce passouk-là nous apprend un message.
C'est pour ça qu'ils sont pris pour Dieu dans l'histoire.
Ah ben bien sûr. Parce que nous sommes Dieu. Un juif, c'est Dieu.
Oui, il y en a un qui a crié plus fort que
un juif, c'est Dieu. Dans un juif, il y a une neshama.
Il y a une neshama, elle fait partie de Dieu.
Cette neshama, elle fait partie de Dieu. Quand il est venu, il a dit, je suis le fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Quand il est venu, il a dit, je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu, Kavirol. On est tous une partie de Dieu.
Mais lui, il a fait ça comme ça.
Hein. Ce qu'il a dit n'était pas forcément faux. La question, c'est quelle utilisation il en a fait. Ça, c'est autre chose. Parce que la manière comment tu présentes la chose, ça peut être mal compris. Donc, Ar Aïnyan Yuvan. Alors, le pasouk dit, je suis à 3,5 avant la fin de la page, Ki chelek Hashem Amo. Donc, le verset dit que le peuple juif est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chelek Mishem Avaye Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple juif est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire une partie intégrante? Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Kedirti, on doit revenir à la création du monde. dans la paracha Bereshit, vous voyez, pour comprendre la paracha Hazinu, il faut revenir à la paracha Bereshit. Dans la paracha Bereshit, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit « Vaipar be'apav nishmat raim ». C'est écrit que Akadosh Baruch Hu a insufflé dans les narines de Adam, Adam qui avait Adam qui est la source de toutes les neshamot, il a insufflé en lui, il a pas soufflé, il a insufflé. Ipar be'apav, il a insufflé en lui nishmat raim, bonne question, nishmat raim, une neshama de vie. Alors le Zohar pose la question. Le Zohar dit, on voit ceux qui se rappellent du cours de Tanakh qu'on avait fait. Donc le Zohar pose la question. Le Zohar dit, mais pourquoi tu dis qu'il a insufflé? Quelle est la différence entre souffler et insuffler? Et le Zohar répond, il dit, c'est très simple. Il dit, il y a souffler et il y a insuffler. Quand une personne souffle, c'est quand ça vient de la partie haute de son corps. Comme par exemple quand je parle. Si je mets la main devant ma bouche, qu'est-ce que je vais sentir?
De l'air.
Du souffle, de l'air. Pourtant, je peux parler pendant des heures sans me fatiguer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui vient de profondeur de mon corps. C'est quelque chose qui vient de la partie haute de mon corps. De toutes les façons, mon corps respire. Donc, j'utilise l'énergie avec laquelle je respire. Et il y a une technique dans le corps qui fait que tu peux utiliser cette technique-là pour souffler. Donc, je peux souffler. Voilà, je souffle. D'accord? Je me suis pas essoufflé. D'accord? Ça, c'est quand on souffle. Mais quand on insuffle, c'est autre chose. Quand on insuffle, c'est comme par exemple quand on va faire du bouche à bouche pour réanimer quelqu'un. D'accord? Que là, en quelques secondes, on est essoufflé. Pourquoi? Parce que quand on va insuffler, ça vient pas du haut du corps. Ça vient du bas du corps. Ça vient du plus profond. Dit le Zohar, man de nafar, mitoche nafar. Celui qui insuffle, il insuffle de ce qui est de plus profond.
Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il s'est fatigué quand il a insufflé.
Ça veut dire quoi? Juste une bonne question, on va développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que Kadosh Baruch Hu a insufflé dans les narines de Adam une neshama, on dit pas qu'il a soufflé, on dit qu'il a insufflé. Ça veut dire que kaviachol, il y a eu un effort de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'il y a un effort de la part d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que quelque chose peut représenter un effort pour Akadosh Baruch Hu? Bien sûr que non. Seulement quoi? Il explique ici, av shen lo demutaguf, chas veshalom, de dire qu'on le dit bien dans le Yigdal, que en lo demutaguf, en oguf. Dieu n'a pas la forme d'un corps et n'est pas un corps. Donc il ne peut pas se fatiguer. Donc, seulement, ach dibra Torah ki lashon bnei adam. La Torah parle dans le langage des hommes. Ça veut dire que des fois, quand la Torah veut nous montrer un message, la Torah va utiliser une image que l'homme connaît pour lui permettre de mieux comprendre ce qu'on veut lui expliquer. Par exemple, quand on va nous parler dans la paracha Shemot, dans la paracha Vaera, que Dieu dit, vous allez voir, je vais vous faire sortir d'Égypte avec ma main forte. Parce que Dieu, il a une main. Bien sûr que Dieu n'a pas de main. Pourquoi on utilise le terme de la main? Parce que quand on sait que chez les hommes, quand on dit une personne qui a la main longue, c'est un symbole. La main longue, la main forte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin. C'est un symbole qu'on connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, utilise des notions que les hommes, bonsoir, utilise des notions que les hommes connaissent. Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, utilise des notions que les hommes connaissent pour illustrer des concepts et pour nous permettre de mieux comprendre certains concepts. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha Bereshit, quand on nous parle de la création de l'homme, quand on nous parle de la création, pas seulement de la création de l'homme, on dit que Dieu a façonné le corps de l'homme et il a insufflé en lui une neshama. On a l'impression que quoi? Puisque Kadosh Baruch Hu a employé le terme insufflé et qu'on a expliqué qu'un homme, quand il insuffle, ça lui demande beaucoup plus de force. On vient d'expliquer, oui. Quand on souffle, ça demande pas beaucoup de force. Quand on insuffle, ça demande beaucoup de force. Donc c'est une image qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous montrer pour nous dire quoi? Pour nous dire, sache que ton corps, on l'a façonné, c'était du gâteau pour Akadosh Baruch Hu. Il est juste formé. Ça c'est le corps. Mais pour la Neshama, Akadosh Baruch Hu l'a insufflé. Ça veut dire quoi insufflé? Pas Kras Veshalom, c'est un effort. C'est une image pour te montrer que Akadosh Baruch Hu s'est énormément investi dans la Neshama. Il va expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un investissement de la part de Dieu? Quand on investit dans quelque chose, c'est quelque chose dans lequel on a des attentes. Quand je mets beaucoup d'argent dans une affaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attends quelque chose de cette affaire. Sinon, je mets rien du tout dedans. On est d'accord? Si j'investis, c'est que je compte récupérer quelque chose. Donc, de la même manière, quand une personne parle, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on peut parler pour rien dire. Ça ne me dérange pas. Mais quand une personne va insuffler, il va perdre ses forces, comme on a expliqué, pour réanimer quelqu'un. C'est parce qu'il pense qu'il est utile, il pense qu'il est en train de réanimer quelqu'un. Dès qu'il pense que ça ne sert à rien, il va s'arrêter. Quand je mets toutes mes forces, ça veut dire que je pense que ça va servir à quelque chose. Alors, ce qu'il veut expliquer ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, le corps de l'homme, ça, il n'y a pas besoin, c'est pas un effort kaviyachol, il n'y a pas d'investissement d'Akadosh Baruch Hu dans ça. Mais la neshama de l'homme, il y a un investissement. Qui dit investissement, ça veut dire quoi? Investissement dans le sens que Akadosh Baruch Hu attend un retour de la neshama.
Qu'est-ce qu'il attend?
On va expliquer. Il pose une bonne question, David dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bonne question. Seulement, vous comprenez déjà que quand on te dit que Dieu, de nous, il attend plus que les autres, automatiquement, quand de quelqu'un tu attends plus que les autres, tu investis plus que les autres, dès que ça ne va pas, tu vas le gronder beaucoup plus que celui qui n'attendait rien. Imaginez un patron qui a plusieurs employés. Il y a un employé que bon, il est là, il travaille, mais on n'attend pas grand-chose de lui. C'est un stagiaire. Tu comprends que s'il fait une bêtise, tu vas peut-être lui faire une remarque, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, quand t'as un gros commercial, et que de lui t'attendais beaucoup, et qu'il fait une bêtise, tu vas le gronder beaucoup plus gravement. Pourquoi? Parce que tu avais beaucoup plus d'attentes de sa part. On attendait beaucoup plus de lui. Donc imaginez que nous, le Ham Israël, nous ne sommes pas les stagiaires de Dieu, nous sommes les commerciaux d'Akadosh Baruch Hu. Et un commercial qui doit taper fort, qui doit faire du chiffre. Et quand au lieu de faire du chiffre, on fait perdre des affaires au bon Dieu, Kaviyachol, il n'est pas content. Encore plus que l'égoïme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire. Je vais simplement expliquer la notion que dès le départ, le Ham Israël a été conçu différemment. Et puisqu'on a été conçu différemment, donc il n'y a pas les mêmes attentes de notre part que l'attente, que les attentes des goyim.
Au stade de l'explication que tu fais là, oui. C'est quoi la différence entre nous et les goyim d'après?
C'est très simple, c'est que Akadosh Baruch Hu laisse passer pour les goyim beaucoup plus que pour les juifs. Non. Beaucoup plus. Par exemple.
Il a créé l'homme et il lui a insufflé.
Un exemple très simple.
Et pour les goyim.
Très simple. Les goyim ne sont pas jugés chaque année.
Il n'a pas insufflé.
Les goyim, des fois, ils sont jugés une fois tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Les goyim ne sont pas forcément jugés chaque année. Pas forcément, non. Le monde est jugé, mais ils ne sont pas forcément jugés spécifiquement chaque année. Individuellement.
Il y a quand même quelque chose.
Pourquoi? Deux secondes, pourquoi? Pourquoi? Parce que dès le départ, ils sont conçus différemment. Donc on n'a pas les mêmes attentes d'eux. Akadosh Baruch Hu d'un non-juif n'a pas les mêmes attentes qu'un juif.
C'est pris dans le texte, c'est-à-dire qu'il prend en référence ce qu'il a insufflé à Adam.
On va amener d'autres sources.
Adam.
Oui, bonne question.
C'est Adam. Adam, c'est une perle de toutes les neshamot.
Sauf que Adam Arishon, il y a deux choses.
C'est l'humanité. Donc, si on peut penser que c'est insufflé, on suit le même mécanisme, ça voudrait dire.
Mais le pasouk.
Comme il dit, sur le même niveau de
je comprends ce que tu dis. Mais le Zohar dit que Adam Arishon avait une neshama qui était la source de toutes les neshamot. Et on voit bien que quand on a créé Adam Arishon, on parle de deux choses. Bonsoir. D'abord, on parle de la création du corps d'Adam Arishon. Création, il a façonné son corps, façonné de la terre. Et après, on dit, il a insufflé dans ses narines une neshama. Ça veut dire que c'est deux phases qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Il y a d'abord un corps qui existe, qui fonctionne comme un animal, d'accord? Comme un animal peut fonctionner, qui fonctionne comme un corps. Et après, il y a le fait que Dieu a insufflé dans les narines, ça veut dire qu'il dit maintenant, toi, Adam Arishon, on va attendre quelque chose de beaucoup plus fort que les autres. Ça, les goyim ne l'ont pas hérité. Ce deuxième aspect n'ont pas hérité. C'est pour ça qu'on voit dans l'histoire, que Dieu ferme les yeux sur les nations beaucoup plus que sur les juifs. Nous les juifs, on est jugés chaque année. Et on a des xérotes, Dieu préserve, qui nous tombent sur la tête. Et dès qu'on a des xérotes qui nous tombent sur la tête, on va se mettre à prier. Chez les goyim, avant que Dieu y craque, Kaviyachol, il a fallu qu'il y ait la débauche, que tout le monde faute, que les hommes allaient avec les animaux, que les animaux allaient avec les hommes, et que même les animaux, il y avait l'inceste parmi les animaux. Et là, Dieu a dit, bon, ça suffit, on va faire le maboule. Mais avant que Dieu y craque, il a fallu longtemps.
Clair. Donc, le
il a fallu très longtemps.
Qu'est-ce qu'il prend le Rosh Hashanah?
Pour que Dieu y craque Kaviyachol pour les goyim, il faut beaucoup plus de temps. Parce que c'est comme le djinn qu'on a dit tout à l'heure. Avant que la tâche elle dérange, il faut vraiment que la tâche soit très 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 grosse.
Il attend beaucoup plus.
Alors que nous...
On essaie de protéger, donc il... Voilà.
Non, tu vois justement, c'est pas ce qu'il développe ici. C'est pas qu'on essaie de protéger.
Quelque part, il nous demande de faire des choses que les autres ne font pas, donc...
Non, c'est pas qu'on essaie de protéger. C'est qu'on est conçu différemment, on a des missions différentes, et donc on a des attentes différentes.
Il attend plus de nous.
Tu comprends? C'est comme quand tu vas en guerre. Quand t'as l'unité d'élite qui fait une erreur, c'est pas la même chose que quand t'as un simple soldat qui a fait une erreur. Un simple soldat qui a fait une erreur, c'est pas la fin du monde. Mais quand l'unité d'élite a fait une erreur, chaque chose qu'il va faire sera analysée. Chaque erreur qu'ils vont faire sera analysée. Imaginez que nous sommes ici comme des acteurs.
Pourquoi tu fais aussi loin?
Vous avez déjà vu un plateau de tournage, comment ça marche?
un film. Ah, il y a un truc que je les ai appelés, là.
Alors, est-ce que vous avez déjà vu un plateau de tournage? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en train de jouer. Et il y a des acteurs qui sont en train de jouer. Et il y a plusieurs caméras, des fois des dizaines de caméras, qui sont rivées sur eux et qui analysent chaque chose qu'ils font. Le moindre petit faux pas, tout de suite est analysé. On dit, hop, attention, ça ne va pas. Ben, imaginez que nous, les Bnei Israël, nous sommes comme des acteurs. Les nations, c'est expliqué dans un autre endroit que les nations peuvent être un petit peu comme, excusez-moi du terme, je veux pas m'attraper les foudres, mais les nations peuvent être un petit peu comme des figurants. Tu comprends qu'un figurant, à moins qu'il a fait les oreilles d'âne derrière l'acteur, bon, s'il a marché un peu à droite, un peu à gauche, c'est pas la fin du monde, on remarquera pas, de toutes les façons c'est flouté. D'accord, vous savez, c'est flouté, il y a des techniques pour flouter. Donc,
c'est le démarrage en fait
qui marche droit, qui marche pas droit, c'est rien, c'est pas la fin du monde.
C'est le démarrage avec Adam Harichot que j'arrive pas à comprendre, la séparation qu'il peut y avoir entre le Goy et le Juif. C'est-à-dire que il a créé Adam Harichot, donc il a créé le corps,
oui.
Ça va d'accord. Après, il lui a insufflé.
Voilà.
D'accord. Mais il a créé le corps, il lui a insufflé. Mais de ce corps-là où il a insufflé. Toutes les branches de
non, la Neshama, non, pas forcément.
Ah, d'accord.
Okay. Ça n'a pas été insufflé à tout le monde. Après, ça s'est arrêté à Shem et Ever, après, c'est arrivé à Noir, etc. Mais ça s'est pas parti à tout le monde. D'accord? Donc, avec ça, on a expliqué que quand Akadosh, vous avez compris que pour expliquer nous, ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est ce qui est écrit dans la paracha à Azinu. Dans la paracha à Azinu, c'est écrit qui relèque Hashem Amo. Que le peuple juif est un morceau de Dieu, est une partie de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est une partie de Dieu, on va revenir à Bereshit. Dans Bereshit, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que dès la conception, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, donc a créé la Neshama, avec une, en l'insufflant une Neshama. Insuffler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a mis le paquet. Il s'est investi dans ça. Donc quand on s'investit dans quelque chose, on attend beaucoup plus. Il va nous apprendre un très grand chidouche. C'est quoi? Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il va dire ici. Le terme insufflé, on le retrouve que chez l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui a été créé. Il y a les anges qui ont été créés. Il y a le Gan Eden qui a été créé. Il y a le Olam Haba qui a été créé. Il y a tout ça qui a été créé. Il y a les animaux qui ont été créés. Il y a le soleil qui a été créé. Il y a la lune qui a été créée. Tout ça a été créé. Sur aucun de tout ça, on a... Ah, dans Bereshit, tout est écrit. C'est écrit dans tout ça.
Donc avant Bereshit, il n'y a pas tout ça.
Il n'y a rien. Avant la création du monde, il n'y a rien. Il n'y a pas de malachim, il n'y a rien.
Il
n'y a que Akadosh Baruch Hu.
Seul.
Bien sûr. Donc ça, c'est un autre sujet déjà. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu a tout créé. Il a créé les malachim, il a créé tout. Ce qui est curieux, ce que nous fait remarquer ici l'Admor HaZaken, c'est que pour aucune des autres créatures, on a employé le terme « va'ipar insufflé ». Ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu, les attentes qu'il a du Ham Israël, il l'a d'aucune autre personne, pas même les plus grands malachim. Il n'y a pas. Les malachim, c'est comme des robots, ils fonctionnent. Il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire qu'un malach qui fait une erreur, c'est beaucoup moins grave qu'un juif qui fait une erreur. Vous comprenez que quand on lit ça, on commence à avoir un peu la chair de boue, parce qu'on se dit, attends, tu t'imagines, Dieu attend tellement de moi, et moi je fais des avérotes.
On peut faire une erreur?
Oui.
Non,
il a été conçu pour ne pas faire d'erreur.
Non, parce qu'il avait
il a été conçu pour ne pas faire d'erreur, mais justement, parce que ça ne nous dérange pas qu'il fasse une erreur.
Une erreur, c'est une erreur.
J'ai compris. Il a été conçu pour ne pas faire d'erreur. Non, il a été conçu. On dit que les malachim, par exemple, quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les malachim qui sont descendus sur terre, ils ont fauté. D'accord, et de là, c'est venu les géants. Exactement. Alors voilà. Oui, c'est des malachim. C'est des malachim qui sont pleins et qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit oui, pourquoi les hommes fautent, nous on aurait fait mieux qu'eux. Oui, exactement. C'est les néphilim, c'était des malachim qui ont voulu jouer les malins, Dieu les a fait descendre en bas, ils ont fauté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur aucune autre créature, à part le Ham Israël, il y a l'expression qui dit va ipar be'apav, qu'on a insufflé. Ça veut dire quoi, insufflé? Ça veut dire qu'il y a un investissement de la part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne s'est investi sur aucune autre créature. Il a créé, il a soufflé, il a parlé. Vous savez, on parle beaucoup de Asara Ma'amarot. On dit que Dieu a créé le monde avec les dix paroles. C'est une parole. On a expliqué la différence entre la parole et le fait d'insuffler. Pour toutes les autres créatures, il les a créées avec la parole. Vayomer Elokim Yehor, Dieu a dit. Dieu a dit, c'est une parole. Que la lumière soit, vayei or, et la lumière fut. Est-ce que Dieu y parle? Bien sûr que Dieu y parle pas. D'accord? C'est pas la parole comme nous. Seulement quand on dit il a dit, ça veut dire qu'il s'est pas investi comme quelque chose qu'on a insufflé. C'est ça le message qu'on veut te faire parler. Il a dit, ça veut dire que c'est quelque chose que, ça se fait qu'avirole presque automatiquement. Par contre, pour nous, les Bnei Israël, il s'est investi. Il y a eu un projet, et il s'est investi dans nous, il attend quelque chose de nous. Donc, comme il attend quelque chose de nous, chaque chose qu'on fait est analysée en direct par Akadosh Baruch Hu.
Donc, la parole, elle est raccrochée à la création, alors que les autres, c'est il y a la parole.
La parole crée.
Voilà.
Qui ou Amar, Vayehi, ou Tziva, Vayehamod. Dieu a dit, Vayehi, et c'est créé. Nous, on crée avec nos mains, Dieu crée avec sa parole.
Entre les deux.
Mais encore une fois, les autres créatures ont été créées uniquement par la parole, alors que la Neshama a été insufflée. La seule chose qui a été insufflée, c'est une image pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu s'est investi comme nous quand on insuffle, comme quand on sonne le chauffard par exemple. Que ça vient du profond, c'est pour ça qu'on s'insuffle très rapidement. Il faut reprendre le souffle à chaque fois. D'accord, sinon on ne tient pas. On peut faire que quelques secondes, après on s'essouffle. Parce que ça vient du plus profond de son corps. Alors, la seule chose pour laquelle on a employé le terme va ipar, ça veut dire que ça a été insufflé, c'est pour la Neshama. Ça veut dire que c'est une image avec laquelle on veut nous montrer que Akadosh Baruch Hu s'est investi particulièrement dans la Neshama d'un juif. Et donc, il y a des attentes. Il attend beaucoup de nous.
Comment c'est ça?
Comment c'est ça? Ça, on le sait de la pile à Parasha Bereshit. C'est le Zohar qui commente comme ça le Parasha Bereshit.
Où ils l'ont vu?
On le voit dans toute la Torah. On le voit dans toute la Torah qu'à chaque fois que les Bnei Israël font des erreurs, des fois des petites erreurs.
Non, comme quoi il a insufflé. Il a insufflé dans le corps d'Adam.
Ah, ben ça, c'est écrit dans la Parasha Bereshit. C'est écrit, Vaipar, Beapav, Nishma Traim. C'est écrit dans la Torah. Si c'est écrit dans la Torah, ça veut dire que Dieu le raconte. S'il le raconte, c'est que ça s'est passé comme ça.
Donc c'est Hachem qui
raconte. Ah oui. Il a insufflé. Il n'a pas soufflé, il a insufflé. Beapav dans ses narines. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu attend énormément de nous, vous comprenez que quand un juif fait une mitzvah, c'est très important. Et quand un juif fait une avéra, c'est aussi très très grave. Donc quand on voit tout ça, on se pose la question maintenant, on se dit, mais dans ce cas-là, comment on peut faire teshuva? Imagine-toi un acteur qui est en train de jouer. Pendant tout le film, il a fait le pitre. Et à la fin du film, il dit, ah, désolé. Mais quoi, désolé? Il est raté, le film.
Ça fait
comique. Tu sais pas que t'es un acteur, on a la caméra qui est rivée sur toi. On a investi, on a mis des millions sur ce film. Et à la fin, il fait le pitre, il dit, désolé, je m'excuse. T'excuses, mais le film, il est raté. À quoi ça sert de t'excuser?
Il n'a pas lu le scénario.
Donc, quand on lit ça, on se dit, mais attends, dans ce cas-là, comment la teshuva est possible, Bichlal? Comment la teshuva est possible? C'est impossible de faire teshuva. Puisque tu me dis que Dieu attend quelque chose de nous, ça change tout. Parce que jusqu'à maintenant, on pensait que Dieu n'attend rien de moi. Seulement, moi, je l'ai blessé, alors je m'excuse d'avoir blessé. Dis-moi, de toute façon, Dieu pour toi, franchement, c'est rien. Si tu trouves par-ci, par-là, c'est pas grave. Mais là, maintenant qu'on est en train d'expliquer qu'il attend quelque chose de nous, il attend nos mitzvot. Il a un plaisir de voir nos mitzvot et il a investi pour attendre nos mitzvot. C'est très grave, parce que comment on peut faire teshuva? C'est impossible de faire teshuva. La teshuva est a priori impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment c'est possible de faire teshuva? Comment tu peux à la fin du film dire je regrette?
C'est créé avec le libre arbitre. Donc automatiquement ça implique une teshuva. Puisque j'ai la possibilité de dire oui ou de dire non.
Mais c'est quoi la teshuva?
Teshuva ça veut dire j'ai regretté, je reviens en arrière.
Ah oui, d'accord, je reviens en arrière. Mais maintenant le film a déjà été joué.
On recommence.
On peut pas recommencer, il a déjà été joué.
Non, je recommence plus là.
Non. On peut pas effacer.
Non, mais je recommencerai plus la faute que j'ai faite.
Mais la faute que tu as faite. J'ai fait une faute maintenant. Sur le vêtement en soi que j'avais, j'ai fait 15 taches. Elles sont là, les 15 taches. Même si le petit vient chez sa mère et dit, maman, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, etc. C'est fini.
C'est le pressing.
T'as cassé le lien.
Comment tu peux nettoyer? C'est tellement grave. C'est impossible de nettoyer.
Avec la baniche.
Alors comment c'est bien expliqué ici. Donc dans les mots. Alors ce que j'ai expliqué à l'oral, on va le voir maintenant dans les mots. Qui en haut de la page Tzadik Dalet. Là, donc c'est la page suivante. Qui Kemosh yesh efresh ve evdel gadol be adam atarton. De la même manière qu'il y a une grande différence dans l'homme ici-bas. Al derech machal. Ben a Evel Shiotsemipi Vediburo, entre le souffle qui sort de sa bouche quand on parle, les Evel Ayotsel et Denefira au souffle qui sort. Shimon, tu peux allumer la clim s'il te plaît?
Ah ouais, je veux bien.
Mais il fait chaud, non?
Il fait chaud.
Ah bon?
Ah bon, vous avez fait chaud, non?
C'est pas chaud?
Parce que tu as bu
et tu parles. Non, j'ai rien bu. J'ai rien bu.
Ouais, il fait pas chaud.
Ça va, si, c'est bon. Je suis bien là.
Faut juste appuyer le bouton en haut, c'est tout. En haut à droite.
Non, il y a un paquet qui est ouvert là-dedans.
Ouais. Non, referme. Referme la trappe. Le petit bouton, il y a un petit bouton. En haut à droite. À droite.
Ne mets pas le chauffage, hein, Simon.
Non, en haut, plus haut. Non, 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 Shimon, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, plus haut.
Quoi, plus haut, y'a rien.
Voilà.
Shimon, tu es trop petit. Appelle-moi après. C'est
mon tour d'avion, il y en a plein de boutons.
Il ne te trompe pas de bouton.
Ok, continue. Donc, Kikmo, Shiesh et Fresh, je reprends la première ligne. On reprend le fil. Kikmo, Shiesh et Fresh, Evdel, Gadol, Be Adam. De la même manière qu'il y a une grande différence dans l'homme ici-bas. Ben Aivel Shiyutsimipiv, entre le souffle, le simple souffle qui sort de sa bouche, Bediburo quand il parle, les Hevel Ayotsel et Danefira, qu'on ne peut pas comparer ça au souffle qui sort quand on va insuffler. Chez Beyotsemidiburo, Melubashbo, Koa, Vechayut, Meat Miser. Quand une personne va parler, il y a du souffle qui va sortir de sa bouche. Mais c'est un souffle dans lequel il y a une très faible énergie. C'est la raison pour laquelle, est-ce que quand je vais parler, ça va m'essouffler? Non, parce que comme il y a une très faible énergie qui sort, il n'y a pas assez d'énergie qui est déployée pour m'essouffler. D'accord. Aval, beyotse bekoach anofeach, beshemidomitochonafach, melubashbo, koach vechayut pnimit, miprinat anefeshachaya. Par contre, quand on va insuffler, va venir une énergie qui vient du plus profond de la personne. Donc quand Akadosh Baruch Hu dans la Parasha Bereshit a dit que Akadosh Baruch Hu a insufflé dans les narines de Adam, une neshama, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé, ça veut dire qu'il attend énormément de nous, il a investi beaucoup dans nous. Il a investi beaucoup dans le Am Israël, encore plus que dans les Malachim, encore plus que dans le Gan Eden, encore plus que dans tout. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un juif fasse une mitzvah ici-bas, encore plus que tout le reste. Donc, il a les yeux rivés constamment sur nous pour savoir est-ce qu'on va faire les mitzvot ou est-ce qu'on va pas faire les mitzvot. Donc avec ça, quand on voit ça, on comprend qu'une avéra est extrêmement grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour la première notion. On va sauter maintenant deux pages, hein, parce qu'il y a encore plein de notions qu'on pourrait développer, mais on n'aura jamais le temps de les développer en deux cours. Alors, on va passer à la page Tzadik He. Donc vous sautez deux pages.
Oui.
Perek He. Parce qu'il ouvre une grande, grande parenthèse avec les sphirotes, etc., très intéressante, mais on n'aura pas le temps de la développer. Alors, Vézé, on va prendre cinq lignes avant la fin de la page. Vézé ou Shekatou, avec ça, on va comprendre ce qui est écrit, qui relèque Hachem Amo, Yaakov révèle Nachalato. Que le Ham Israël est une partie de Dieu. Partie de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une partie de Dieu dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'est investi plus que le reste de l'humanité, comme ce qu'on a pu expliquer. Et on a dit que Yaakov est comparé à une corde. C'est quoi l'image de la corde?
Un lien.
Alors, quelle image ça amène pour vous la corde? Quand on a une corde, ça veut dire quoi?
C'est comme l'échelle.
Attendez, est-ce que vous remarquez qu'il y a un problème dans ce verset parce qu'il y a une contradiction? Au début, tu me dis que je suis un morceau de Dieu, après tu me dis qu'il y a une corde qui me relie. D'accord? Regardez. Si je prends ces deux bouteilles, si je dis qu'elles sont, que l'une est un morceau de l'autre, ça veut dire qu'elles sont
liées.
Un seul morceau. Elles sont chélek, c'est un est un morceau de l'autre, donc elles sont liées.
Ouais.
Mais si je dis qu'elles sont liées par une corde, ça veut dire quoi?
Attachées.
Ça veut dire qu'elles sont détachées. Donc dans le même verset, a priori, il se contredit.
Non. La liaison, elle est faite par la corde.
Ah ben non. Attends, dans ce cas-là, c'est pas un morceau.
D'accord, c'est pas un morceau. Non, mais en réalité,
parce que l'âme, elle est attachée.
Comme un enfant, c'est comme un nouveau-né qui est dans le ventre de sa mère. Quand il sort du ventre de sa mère, il est relié à sa mère par une corde.
Oui, mais le bébé, une fois qu'il sort du ventre de sa mère, c'est plus un morceau de sa mère.
Tant que tu l'as pas coupé le cordon ombilical,
c'est toujours un morceau de sa mère. Ça y est, c'est fini, c'est plus un morceau de sa mère.
C'est une télécommande. Tant que tu l'as pas.
C'est fini. Une fois qu'il est sorti, c'est plus un morceau.
Exactement.
Donc soit l'un, soit l'autre. Donc en vérité, on est obligé d'expliquer qu'il y a deux messages très importants que Moshe Rabbeinu veut nous faire passer dans ce passouk de la paracha à Azinu, qu'on a lu la semaine dernière. Premier message, on l'a déjà expliqué. Il veut nous montrer que le Ham Israël est une partie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaviachol, dans le projet divin, Akadosh Baruch Hu attend énormément de nous. On ne peut pas expliquer pourquoi. Dieu nous a donné un mode d'emploi. Il nous a dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il attend énormément de nous. C'est pas simple. On n'est pas des figurants ici, on est des acteurs. Tout ce qu'on fait va être analysé au crible. Akadosh Baruch Hu va regarder exactement chaque chose qu'on fait. Ça, c'est pour expliquer le fait qu'on est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. L'image de la corde, c'est quoi l'image de la corde? L'image de la corde, c'est très simple. Tu dis, imagine-toi. Quand tu prends une grande corde, d'accord, on va prendre une corde par exemple, une grande corde, d'accord? Donc là, c'est le juif, et là, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu bouges en haut, qu'est-ce qui se passe ?
Bouge en bas.
Ça bouge en bas aussi. Et quand tu bouges en bas,
ça bouge en haut,
ça bouge en haut aussi. Quelle est l'image de la corde ? Une très très belle image qu'il va dire ici.
Nous, on influence.
Il va dire ici qu'en vérité, pourquoi on te donne l'image de la corde ? C'est pour te dire qu'un juif, même si des fois il peut avoir une certaine distance avec Akadosh Baruch Hu, parce que des fois, bon, on est descendu dans le monde matériel, etc. Ouais. Mais il y a une corde. Cette corde, c'est ce qui fait que quand je fais une mitzvah, je bouge énormément en haut. Dans la suite de Guéret Hatshuva, il donnera une très très belle image. Il donnera l'image de l'ombre. On dit que le Ham Israël, on est comparé à l'ombre. C'est quoi l'ombre ? On dit que quand l'ombre a avancé ici-bas de 1 cm, ça veut dire que le soleil a avancé de combien ?
De beaucoup.
Des milliers de fois plus. Quand l'ombre a avancé un petit peu ici, ça veut dire que le soleil a avancé beaucoup. Le Ham Israël, on est comme une ombre. On est ici en bas, on est comme une ombre. C'est ce qui veut expliquer ici. Que quand la corde bouge un petit peu ici, en bas, en haut, ça bouge énormément. Exactement comme le soleil. Quand l'ombre va bouger un tout petit peu, par exemple, entre midi et midi et quart, l'ombre va bouger de rien, de quelques millimètres, en haut, le soleil a fait des milliers de kilomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un juif fait une mitzvah, l'effet est, comment on pourrait dire ça, est
démultiplié
par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'une petite mitzvah qu'on fait en bas, c'est démultiplié en haut. Et, malheureusement, c'est pareil aussi pour
la verrote. Bah oui. J'ai compris démultiplier, mais en quoi ça démultiplie quoi?
C'est comme la corde.
Et ça démultiplie quoi?
Ça veut dire que moi, je vis dans un monde matériel. Et pour moi, quand je mets les tefilines qui sont faites avec une peau de cuir, je vois pas vraiment comment ça change quelque chose dans le monde. Je vois pas comment ça change quelque chose. Je le sens pas. Bon, peut-être je sentir que je me suis attaché un petit peu à Dieu, mais bon, c'est presque abstrait, quoi. Ça, c'est ce que moi je ressens. Parce que moi, pour moi, l'ombre a bougé un tout petit peu. Mais quand l'ombre a bougé un tout petit peu en bas, en vérité, la corde en haut, elle a fait quelque chose d'extraordinaire.
D'accord.
Et c'est la même manière de l'autre côté. Des fois, il suffit qu'Akadosh Baruch Hu bouge un petit peu la corde en haut. Ça veut dire qu'il t'envoie un petit rappel. Et en bas, la Neshama, ça peut partir dans tous les sens. Parce que c'est comme la corde. Regardez dans l'image de la corde. Le morceau de la corde que tu tiens dans la main.
Un petit mouvement là-haut.
Le morceau de la corde que tu tiens dans la main, il bouge très peu. C'est lequel qui va bouger le plus? C'est l'autre côté qui n'est pas attrapé. C'est celui qui n'est pas attrapé, c'est lui qui va bouger le plus. Donc, quand moi j'ai un petit mouvement en bas, en haut, ça fait des choses extraordinaires pour les mitzvot et pour les averot. Et d'un autre côté, quand Akadosh Baruch Hu fait un petit mouvement en haut, ça veut dire il pense un petit peu à moi, on va aussi, ma neshama, elle commence à aller dans tous les sens. L'image de la corde veut dire aussi...
Et le mois de Tishri, c'est dans quel sens?
Alors justement, le mois de Tishri, c'est le mois dans lequel, il y a des moments dans l'année dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il retend la corde. C'est pas des blagues. D'accord. C'est pas des blagues. Le Zohar dit que le Zman de Aseret Imetshuva, la période de Aseret Imetshuva dans laquelle on se trouve, de manière générale, le mois Tishri, mais surtout Aseret Imetshuva, c'est le moment dans lequel, Kiruv Ammaor El Anitzot. Le luminaire est proche de l'étincelle. Le luminaire, c'est Akadosh Baruch Hu, l'étincelle, c'est nous. C'est-à-dire qu'en général, c'est éloigné. Il y a des moments dans l'année dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il enroule la corde, et là, du coup, ils sont très proches. Et donc là, du coup, c'est décuplé. C'est-à-dire que là, c'est, du coup, le mouvement est énorme, parce que la corde est plus petite. Donc plus la corde est petite, et plus on peut aller très fort. Le mouvement est très, très puissant. C'est la raison pour laquelle, même les gens qui sont très, très loin de la Torah, dès qu'arrivent les 10 jours de Teshuvah, forcément, ils sentent quelque chose, parce que la corde, elle a bougé. Même si eux, ils n'ont pas bougé la corde, elle a bougé. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image de la corde? Il y a plusieurs images qui nous viennent dans l'image de la corde. Une corde solide ne peut pas être faite d'un seul fil. Une corde, pour qu'elle soit solide, elle doit être faite de plusieurs fils. Et pour qu'elle soit très solide, d'accord, elle doit être torsadée, et pas seulement torsadée. C'est comme ce qu'on a dans nos titites. D'accord, par exemple, là, dans nos titites, mon titite est fait de 8 petits fils. Si maintenant ces 8 fils, je les aurais encore une fois torsadés pour refaire encore un autre fil, plus tu prends des fils et plus tu les torsades, et plus ça devient très solide. Si j'avais pris une touffe de laine et j'avais fait un gros fil, ça n'aurait pas été solide. Si je prends une grosse touffe de laine, je fais un gros fil, c'est pas solide. Pour que ce soit solide, il faut que ce soit plein de petits fils. Ce qui va expliquer ici, c'est quoi la corde qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël? C'est les mitzvot. La corde qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est les mitzvot. Pourquoi il n'y a pas une mitzvah? Pourquoi il y a 613 mitzvot? Parce que c'est comme la corde. Si tu veux que la corde soit solide, il faut qu'il y ait plein de fils, un maximum de fils et de cordes qui sont imbriqués les uns dans les autres, et c'est ça ce qui fait que la corde va être solide. Qu'est-ce qui se passe quand un juif fait une avéra?
Casse la corde.
Il coupe un fil.
Non, il casse pas.
Non, il y a...
Mais il n'y en a pas qu'un seul.
Non, mais si tu dis, il y a 613 cordes. si tu dis qu'il y a disons qu'il y a 613 cordes, un rachat.
Non, il n'y a pas 613 cordes. C'est une corde qui est composée de 613 fils.
Voilà. Ok, disons un rachat, ouais. Un vrai rachat, un ouais. 100%, un number one. Il ne fait pas aucune mitzvah. Je ne sais pas s'il fait des avéros, mais il ne fait aucune mitzvah.
D'abord, c'est pas possible.
Ça, pas, ça.
Tu sais pourquoi on mange la grenade à Rosh Hashanah ? Pour dire que même les Rechaïm, ils sont pleins de mitzvot comme une grenade. C'est la Gemara qui dit ça.
Ah ouais ?
Oui.
613 grammes de la grenade.
Il n'y en a pas 613. Hein.
Non, mais il y en a qui comparent.
Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pour l'image.
Ah, parce que les enfants, ils ont compté, ils n'ont pas trouvé.
Ah,
non,
il n'y a pas.
Il y a pas.
Enfin, après, il n'y en a pas ?
Non, pas du tout. Il y a beaucoup moins.
C'est l'image.
Il y a à peine 10 ou 20.
Non, non, il n'y a pas 10 ou 20. Il doit y avoir une centaine, je crois.
En plus.
Ça dépend de la grenade.
324, du coup,
non, mais il y en a beaucoup plus.
Il a compté
324. 324 Bon, ça dépend de la grenade que t'as achetée. Ah, moi, cette année, j'ai acheté une grenade, les grains, ils étaient énormes. Je prenais une grain, c'était des.
Il y en avait deux pour les.
C'était des raisins secs.
La même quantité, il y en a.
Pas partout.
Bon, pas dans tout. Tu peux acheter une grenade comme ça, tu peux acheter une grenade comme ça, il y en a la même.
Bon, en tout cas, il n'y a pas 613. J'ai lu qu'il n'y a pas 613. Ouais. Donc. Quand on a une corde, plus la corde a deux fils et plus elle est solide. Dans la corde du Ham Israël, nous avons 613 mitzvot, ça veut dire 613 fils. Dans les 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positives, d'accord, et 365 mitzvot négatives. Qu'est-ce qui se passe, les mitzvot négatives? Comment j'accomplis une mitzvah négative? C'est quand elle se présente à moi et que je ne la fais pas. Par exemple, le Shabbat, j'ai une occasion de travailler, parce que tout le monde peut travailler, et je ne travaille pas le Shabbat, je viens d'accomplir une mitzvah négative. Donc en fait, tous les Shabbats, on fait des mitzvahs négatives. On les accomplit, Kavirol. On renforce ce fil. Chaque fois que je fais une Avera, je coupe un fil. Quand je fais Teshuvah, qu'est-ce que je fais?
Je
répare le fil. Maintenant, il y a un principe, écoutez bien, il y a un principe qui dit qu'un fil qui a été réparé, à l'endroit où il a été réparé, il est plus fort qu'avant.
Ah ouais,
bien sûr. Parce qu'il y a un nœud. C'est un kécher. Alors, c'est pas propre. C'est pas propre comme avant. C'est pas propre comme avant. D'accord? Ça veut dire que tu vois un nœud. C'est pas un fil clean. Le tzadik, tu vois, tu viens, t'as un fil, il est clean, il n'y a rien.
Donc, t'as réparé une avion.
Nous, dans notre fil, tu vois, il y a des nœuds partout.
D'accord.
Mais, quelque part, quand on te dit que le Baal Teshuva, il dépasse le tzadik, parce que le Baal Teshuva, comme il a des nœuds partout, donc, du coup, son fil, il est hyper costaud. Maintenant, comment comprendre qu'on nous dit qu'il y a des avérotes sur lesquelles on est chayav karet? Il y a des avérotes sur lesquelles on est chayav karet, ça veut dire quoi? On dit qu'il y a certaines avérotes, comme on a expliqué pour ceux qui étaient là la semaine dernière, et on avait expliqué qu'il y a trois catégories d'avérotes. Il y a les misvotes positives classiques, comme par exemple mettre les téfilines, lire le schéma. Il y a les misvotes négatives classiques, et il y a les avérotes sur lesquelles on est chayav karet. On est retranché du peuple juif, comme par exemple celui qui ne fait pas la mila à son fils, celui qui n'a pas la mila, ou celui qui mange du chametz à Pessah, ou celui qui mange à Kippour. Qu'on a dit que ces avérotes-là, quel est le dîn? Celui qui les fait, il est retranché du peuple juif. Ça veut dire quoi retranché?
C'est que la corde est coupée.
Mais la corde ne peut pas être coupée parce qu'il dit qu'il y a 613 fils. Donc tu ne peux pas couper plus qu'un fil. Alors ce qu'il va expliquer ici, c'est que dans les 613 fils, il y a certains fils qui ont un effet explosif, dynamite.
Bon.
Tu coupes celui-là,
on sait combien il y en a.
Ça explose. Il y en a 613.
Non,
Oui, et ça correspond exactement au nombre de avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Il y a quelques avérotes, il doit y avoir une quinzaine d'avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Et donc ces avérotes sur lesquelles on est chayav karet, imaginez ça comme un fil explosif. Les autres fils, quand tu coupes le fil, t'as coupé que le fil.
On peut réparer.
Donc les autres, ils sont encore là. Donc la corde, elle tient. Mais il y a certains avérotes dans lesquels tu coupes celui-là, t'as tout coupé. Et donc du coup, la neshama est complètement coupée d'Akadosh Baruch Hu.
Et tu peux plus réparer?
Plus réparer.
Si il y a pris un chabad qui passe, il
peut mettre. Non, l'avérot se connaît Ravkalat, c'est impossible de réparer.
Ça répare.
Il est obligé de mourir, et après on lui refait un fil.
Ouais, bon.
Mais attention, je parle d'une personne qui a mangé du chametz volontairement à Pessah, qui est née dans une famille religieuse, etc. Enfin bon, je parle pas de.
Ah oui. Bon.
Mais sur ces avérotes-là, Khayav Karet, ça veut dire quoi?
Personne qui était malade à Kippour qui a mangé à Kippour.
Non, pas du tout.
Que tous les juifs aujourd'hui qui mangent du pain à Pessah, ils sont retranchés?
Non.
Ils savent, mais ils font pas.
Ils savent, mais est-ce qu'ils sont nés dedans? Est-ce qu'ils sont réellement conscients de la gravité de ce qu'ils font?
Ils savent. Ils sont peut-être pas
conscients. Ça veut rien dire savoir.
Ils savent même pas.
Ça veut rien dire savoir.
Non, mais s'ils ont été élevés là-dedans.
Et alors, si tu sais, ça veut rien dire ce que tu sais? Imagine-toi, Marcel, que je viens te voir. Écoute-moi, Marcel. Imagine-toi que je viens te voir et je te dis, Moshe Rabbeinu, il vient te voir. Et il te dit, dorénavant, tu devras te suffire de 1 euro par jour.
Ouais, tu vois, je vais en Afrique.
Et sinon, Gainom. Attends, attention. Sinon, Gainom. Tu le sais, sinon, Gainom. Tu vas le faire? Peut-être tu, peut-être non. T'as pas été éduqué comme ça, je peux pas vivre comme ça.
Mais je vais essayer, de toute façon, si tu veux faire un qui vient.
J'ai compris. Est-ce que tu peux dire c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, je suis pas né dedans, je suis pas éduqué comme ça. Tu comprends? J'ai pas été éduqué comme ça.
D'accord, mais ça n'empêche pas ce que tu viens de dire, c'est qu'ils savent, ils font quand même.
Le fait de savoir, ça ne...
Ils n'ont jamais pratiqué.
Oui, c'est le petit d'âge, on n'a pas
parlé. Ils le savent, parce qu'ils n'ont pas l'importance de la chose. Oui, ils ne connaissent pas les conséquences.
Ils ne savent pas, ils sont au courant. Ils sont au courant. Mais ils n'ont pas conscience. Ils ne sont pas nés dedans. Donc, automatiquement, ça devient une circonstance atténuante. Parce que pour eux, ce n'est pas un centre d'intérêt, ça ne les intéresse pas.
Tu veux dire que quelqu'un qui n'est pas né dedans, qui n'a pas une connaissance particulière, qui savent qu'on doit respecter, par exemple, on parle de Kippour là, qui savent qu'ils doivent respecter Kippour et qu'ils ne le respectent pas, ils ne tombent pas dans le...
Je vais aller plus simple que ça. Prends un juif de Kippour, qui sait que normalement à Kippour on ne mange pas.
Donc, il
d'accord aucune... Qui va venir à la synagogue, mais qui va manger à Kippour. Il va manger à Kippour.
Oui.
D'accord. Miladine, il n'a pas coupé son fil.
D'accord,
j'ai pas dit qu'il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait de mitzvah. Mais quand il va arriver en haut, il y a les anges qui vont défendre et vont dire, écoute, il n'est pas né dedans. Donc pour lui, c'est quoi Kippour? C'est ma mère m'a raconté qu'à Kippour on mange pas. Bon, ma mère m'a raconté, maintenant moi j'ai faim. Tu comprends? Donc c'est, il y a toutes des circonstances atténuantes qui sont très puissantes.
Alors c'est quoi cette grande avéra?
Une partie de lui-même.
Cette grande avéra, c'est celui qui le fait intentionnellement.
La mise en garde, elle est pour nous, elle est pas pour
lui. Dans les deux cas, ils le font les deux intentionnellement. Il sait qu'il doit pas.
La subtilité, c'est que celui qui est conscient de la gravité et de l'importance d'une mitzvah. Je referme la parenthèse. La gravité, c'est que celui qui est conscient de la subtilité, de la gravité d'une mitzvah et d'une avéra et qui l'a fait quand même, c'est beaucoup plus grave que celui qui n'est pas conscient. Celui qui est conscient de cette avéra, alors là, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu le dit, sur certaines avérotes qui sont comptées, comme on a dit, sur le bout des doigts, comme il y a une quinzaine d'avérotes, celui qui les fait, c'est un fil, c'est une dynamite qui coupe tout, qui casse tout.
De toute façon, celui-là.
Il a vécu là-dedans, il dit, mais moi, j'y crois pas.
C'est de quoi il a vécu là-dedans?
Il a fait les plombs, il a arrêté.
Un problème.
Non, j'y crois pas, j'ai pas envie, je m'en fous.
Exactement.
Est-ce que Dieu peut le trouver des circonstances atténuantes?
De toute façon, normalement, tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit, on est en galoute.
Normalement,
c'est contre notre gré qu'on faute.
Non, doucement.
Tu peux nous parler de ce que tu veux.
C'est pas contre notre gré qu'on
fait. Du jour au lendemain, on a décidé que
juif, on peut pas fauter,
non.
Si pas...
on est en galoute. Que...
Quand tu as quelqu'un, par exemple, qui est à la yeshiva, etc., et qui s'est laissé aller, il a fait exprès d'aller faire des bêtises, le gars, il cherche des problèmes, il va à Ibiza, il dit, je veux apprendre la vérote. Il dit, attends, dis-moi.
Mais écoute, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel de la galoute.
Le gars, il dit, je veux goûter la vérote. Dis-moi, papa. Mais sûr, tu vas aller chercher, tu vas aller trouver la vérote.
C'est plus Ibiza, c'est Mykonos.
Ça a changé?
Tu décroches, ils vont tous à Mykonos.
C'est les saisons?
C'est pour les jeunes, c'est pas pour les.
C'est cyclique.
On a de la chance, mais on est moins jeunes.
Donc je reprends.
Quoi?
Quelle est l'image de la corde dans ce pasouk de la paracha à Zinou? C'est bon, Rabotaï?
Comment on va faire pour tous ces gens? Il y a un bête rabat.
Alors finalement, c'est pas très très.
C'est assez compliqué
de rentrer dans le cadre de ces 15 avérotes.
Oui, c'est assez compliqué, mais c'est possible. Pour nous, c'est très compliqué. En général, dans l'écrasante majorité des cas, on rentre plutôt dans la catégorie des fils qui ont été coupés. Donc du coup, la corde est fragilisée. Attends, mais la corde est fragilisée quand même.
Quand?
Donc là, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait?
On va faire des nœuds.
Maintenant, il y a une autre image qui va développer ici. J'explique beaucoup à l'oral parce que sur texte, on n'aura jamais temps d'expliquer. Il y a encore une autre image qui l'explique. On a dit tout à l'heure que le Ham Israël est comparé à un soufflé, alors que les nations sont comparées à souffler. Et il donne une très belle image. Il dit, regardez, quand une personne veut souffler, pas insuffler, s'il met quelque chose devant sa bouche, par exemple, si je mets un mouchoir, d'accord, je me mets à parler, est-ce que vous m'entendez là?
Moins bien.
Oui. Mais est-ce que vous m'entendez?
Moins bien.
Il y a un écho.
Ah oui, mais pas
vous m'entendez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, le souffle, arrive à passer derrière ce qui bloque. Par contre, si je veux insuffler.
Non, vous pouvez pas.
C'est dur.
C'est impossible.
Impossible.
C'est impossible. Si je, non, mais c'est, si je veux insuffler et que je mets quelque chose qui interrompt, tout de suite ça coupe. Avec ça, il explique. Voilà pourquoi une avéra pour un juif, c'est beaucoup plus grave qu'une avéra pour un non-juif. Parce que pour un non-juif, c'est quoi une avéra? Tu mets un voile. C'est pas grave. Ça passe moins bien, mais ça passe. Mais un juif qu'on t'a dit qu'il est en mode insufflé, dès que tu mets un voile, ça passe plus. Donc vous comprenez qu'on est conçu différemment dès le départ. Et pour nous, une avéra, ça bloque tout de suite. Ça bloque tout de suite. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est très puissant. On a une relation très puissante avec Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, comme on a expliqué, il y a la corde. La corde, ça veut dire que dès que tu fais une avéra, ça coupe un fil. Et pas seulement ça, il y a le fait qu'on a été insufflé. Ça veut dire quoi, insufflé? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a investi beaucoup plus en nous et qu'il attend beaucoup plus de nous. Et surtout, qui dit insufflé, dit que si tu mets quelque chose devant, tu peux plus souffler. J'ai déjà essayé avec un chauffard. Hein. Mettez une serviette et mettez un chauffard. Ah bah oui, impossible. Ah, mais j'ai essayé. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de tellement profond qu'on peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui coupe. Ben, c'est la même chose. La relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et un juif est une relation qui est tellement profonde qu'on peut pas se permettre quoi que ce soit qui coupe. La moindre petite saleté, pac, ça coupe et ça passe plus. Voilà pourquoi un juif, dès qu'il fait une avéra, ça bloque. Alors qu'un juif, il peut continuer comme ça des années sans que ça bloque. C'est bien ou c'est pas bien?
Ouais, ça
dépend. Magnifique. Oui. On saura samedi soir.
Non, est-ce que c'est bien pour nous ou c'est pas bien pour nous?
En fait, ça veut dire quoi?
On saura samedi soir si on le sait. Quoi.
Bah, ça veut dire qu'on a
si on est inscrit grâce à Dieu.
Voilà. On est inscrit si Dieu veut. La question qu'on essaie d'expliquer c'est aujourd'hui.
Il y a peu de chance qu'on soit retranché. Comme
c'est dommageable.
Oui.
Quand tu es retranché, c'est quand tu ne connais pas, que tu n'as pas les conséquences, ainsi de suite.
Mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est pourquoi dès la conception, nous sommes un peuple qui sommes différents. Là, on le comprend maintenant. On a expliqué comment on a une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, nous avons été insufflés, et que nous sommes une corde d'Akadosh Baruch Hu. Qui est lié avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on va terminer dans les mots. Alors, je passe à la page 190. Avec ça, on s'arrêtera pour aujourd'hui. Alors, je suis vers le milieu de la page. Juste après la parenthèse. Vous avez Vézé ou Inyan Akaret?
Ouais.
Allez. Vézé ou Inyan Akaret avec l'image du. C'est bon? Alors. Comment c'était? T'as remis les fils? T'es rebranché? On parle de fils. Vézé ou Inyan Akaret. Ça, c'est le sens du karet. C'est quoi karet? Rappelez-vous, karet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand la neshama est retranchée. Shenichat venipsak ki revel a amshacha mishem avaye baruchu shenimshacha mehet ata kanal. Quand on dit qu'il est une personne est chayav karet, ça veut dire que le fil est complètement coupé. Pas juste un petit fil. Il est complètement coupé. Ukmoshe katoub parashat emor, comme c'est écrit dans la parashat emor, venicheta anefeshaï milifanaï ani hachem, akadosh baruchu dit sur certaines avérotes, l'âme qui fait ces avérotes-là sera retranchée. C'est-à-dire qu'on coupe le fil.
La corde.
Ufgam, ou milachon, ou bishar avérot, dans les autres avérotes, sh'en bem karet, dans les autres avérotes sur lesquelles on n'est pas chayav karet, donc des avérotes plus classiques, comme oublier le schéma, oublier de mettre les tefilines, faire une avéra le shabbat, etc. C'est des avérotes qui sont plus classiques. Alors, là, dans cela, sh'en bem karet, dans lesquelles c'est pas chayav karet, al kol panim, quand même, em pogmim an nefesh kanoda. Elles font une trace dans l'âme. C'est quoi la trace qu'elles font? Ufgam, ou milachon d'gimat asakin. Quand on dit qu'elles font une trace, c'est comme un couteau qui va entailler. Entailler quoi? Et là, il amène la fameuse image que je vous ai donnée de la corde. Ve'wal derech machal. On pourrait donner l'exemple. Mi chevel av, d'une corde épaisse. Chazur metariak ravalim dakim, qui est filé de 613 petites cordes. C'est l'image qu'on a expliquée. Kacha, de la même manière. Révèle Am Shacha Anal, le lien de connexion qui est entre un juif et Akadosh Baruch Hu, Kalul Mitarek Mitzvot. Il est inclus de 613 mitzvot. Ukshover Chazve Shalom Alachat Mehena, quand Chazve Shalom on transgresse une de ces 613 mitzvot, Nifsak révèle Adak, le petit fil est coupé. Mais il reste les autres, donc la corde tient encore. Ach, Gam Bechayav Karet Umita, Nishar Adainbor et Shehum Nafshe Elokit. Bon, ça, c'est un autre sujet. Il dit que concrètement, même celui que son fil a complètement été coupé, par exemple celui qui a mangé volontairement du hametz à Pessah, ou celui qui ne fait pas la brit mila volontairement, ou celui qui enlève la brit mila.
comment ça il peut
on peut enlever, il y a des opérations, on peut recouvrir.
Ah bon?
Bien sûr.
Ah ouais.
D'accord. Il y a des gens qui le font, oui. Il y a des gens qui le font. Donc dans ce cas-là, celui qui le fait. Celui qui. Oui, exactement. Celui qui le fait. Non, mais il y a des gens qui le font.
Il manque un beaucoup, tu peux.
C'est vrai que le Sefer Achinour, c'est de mémoire, c'est le Sefer Achinour qui explique. Il dit que. Non, mais il y a des opérations qu'ils font, après ça repousse. C'est retourné. Il faut juste le remettre. Mais il y a des opérations. C'est douloureux, mais c'est faisable. Le Sefer Achinour explique que la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila, c'est pour atténuer le plaisir qu'on a quand on a des relations. Donc on est moins. C'est quand même de la même manière quand on va enlever le sang de la viande. Pourquoi on enlève le sang de la viande? Elle est moins bonne, la viande. C'est pour atténuer le plaisir de la nourriture.
Ah ouais.
Oui. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on soit à fond dans le matériel. Et beaucoup de choses qu'Akadosh Baruch Hu nous aide avec ça. C'est pour ça qu'on enlève le sang, c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila. Donc celui qui renlève sa Brit Mila, c'est une avérate qui est très grave. Il est chayav karet. Chaque jour qui passe, il est chayav karet. Alors si on dit qu'il est chayav karet, est-ce que ça veut dire qu'il doit mourir sur place? Non. Parce que, il y a un fil. Il a coupé le gros fil. Mais il reste de l'énergie encore dans le fil. C'est comme un fil d'électricité. Tu coupes le fil. Mais dans le fil, il y a encore de l'électricité.
Il ne reste pas rien.
Exactement. Il en reste. Seulement, à l'époque de la Gemara, les gens écoutez bien. Non, mais c'est du sérieux. Les gens qui étaient Chayav Karet, ils mouraient
avant
50 ou 60 ans. Et c'était une réalité. Pourquoi ils mouraient avant 50 ou 60 ans? Parce que, en fait, ils tenaient avec le reste du fil, quoi. Il y avait un peu d'énergie dans le fil, il tirait avec ça, après c'est fini. Pourquoi c'est pas comme ça aujourd'hui? Ça, c'est un autre sujet. D'accord? Ça, c'est pas le thème de cours. Ce que je voulais montrer, en tout cas, dans ce cours-là, on a expliqué une notion, je pense, très importante.
Ça aide, ça remet de l'énergie.
Que pour comprendre la notion de la teshuva, qu'est-ce que c'est faire teshuva? On a expliqué que teshuva, c'est l'adhésion d'un instant.
Est-ce que quelques minutes de vote peuvent rater après quelques avérotes?
Ah ben non, ça marche pas comme ça. Justement, c'est ça la question qu'on se pose. Comment tu peux faire teshuva? Alors la réponse est la suivante. Écoutez bien, la réponse est la suivante. Ça change pas. Tu vas réparer un film, tu répares pas l'autre.
Mais quand tu faisais rien et que tu faisais que des
as 613, tu as 613 fils. Tu as coupé un. Même si je veux renforcer un autre 10 000 fois, celui qui est coupé, il reste coupé.
Tu veux pencher, tu peux pas racheter.
Donc comment on peut faire tes chouba?
Reconnecter celui-là.
Alors écoutez bien. Ce qu'on va expliquer en vérité, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on n'aura pas le temps de développer plus que ça. C'est qu'en vérité, quand une personne fait teshuva, comment on peut faire teshuva? Comment tu peux réparer? C'est coupé. C'est quand une personne fait teshuva, il se met à un niveau de relation avec Akadosh Baruch Hu dans lequel la avéra ne dérange plus. Ça veut dire quoi? On va donner un exemple. C'est comme si, par exemple, on a un père qui s'est accroché avec son fils. Ils sont disputés, par exemple, le fils a manqué de respect à son père, il se parle plus. Et une fois va arriver la date anniversaire de, je sais pas moi, l'anniversaire de ses parents. Et le fils, il débarque à la maison. Il débarque à la maison pour montrer l'amour qu'il a envers ses parents. Il y a des moments, on explique en chassidoute, il y a des moments dans lesquels, même si concrètement il y a un blocage et que normalement il n'y a aucune raison qu'on s'entende, il y a des moments dans lesquels on arrive à être au-delà de tout ça. Et ben c'est ça la force de la teshuva. La force de la teshuva, c'est qu'on nous permet, Kadosh Baruch Hu nous permet d'aller au-delà de tout ça pour réparer le problème, pour nous aider à quand même continuer à avoir une relation. Mais ça change pas, que même si le fil tient toujours, il y a quand même, le problème est toujours là, le fil est toujours coupé, et ça on peut rien faire. Ça veut dire, même si je vais m'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va me promettre, va dire, t'inquiète pas, on t'en parlera pas aujourd'hui du jugement, mais le fil est coupé. C'est pour ça qu'on voit, que pour parfaire la teshuva, c'est là que je reviens au début du cours, laissez-moi terminer le fil. Donc, le scénario est très simple. Imaginez que je suis né avec les rabotailles, il faut bien suivre le fil. Le fil, oui. Alors, imaginez que je suis né avec 613 fils. Baruch Hashem, en bonne santé, tout est là. Dieu préserve, j'ai fait d'avérol, j'ai coupé des fils. Arrive Yom Kippour, même avant Yom Kippour, je fais tchouva, Dieu dit, écoute, t'as fait tes chouva, t'as décidé de plus recommencer, t'as décidé de préserver l'existant. Dans ce cas-là, quand tu arriveras en haut, au jour du grand jugement, on te mentionnera pas l'avérol que tu as fait. Y a pas de problème. Tu arrives en haut, on fait comme si de rien n'était. Y a pas de problème. On t'accepte, on continue comme si de rien n'était. Mais le fil est coupé. C'est pour ça que dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu, ta relation, t'as perdu des pourcentages de relation, donc tu sens qu'il y a un blocage. Là, va venir ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui va venir parfaire la teshuva. C'est là le rôle de tout ce qui venait parfaire la teshuva, comme les korbanot, les sacrifices, les jeûnes, la tzedaka. Tout ça, c'est uniquement pour compenser pour compenser tous ces fils qui ont été coupés, pour essayer de les réparer. Mais c'est pas la teshuvah. La teshuvah, c'est le fait de dire à Kadosh Baruch Hu, je te promets que je vais essayer de m'arrêter là et de faire en sorte que maintenant, ça y est, je vais m'accrocher à toi. C'est tout. Ça, t'es déjà bal teshuvah. À Kadosh Baruch Hu dit, je te prends tel quel, on s'arrête là, y a pas de problème. Je te mentionnerai plus aucune avéra. Ah, pourquoi? Je termine le fil. Faut suivre le fil. Pourquoi, dans ce cas-là, on va continuer dans ce cas-là à faire des jeûnes, à donner de la tzedaka? C'est uniquement parce qu'on sent qu'il y a un blocage et que les fils ils sont coupés. Faut bien les réparer, ces fils. On va pas mourir en les laissant couper. Alors, comment je vais les réparer? Je vais les réparer avec des choses qui vont parfaire la teshuvah. Les jeûnes, la tzedaka, les korbanot, qu'il y avait à l'époque.
De plus en plus de mitzvot.
Exactement. Mais, est-ce que ça va réparer le fil? Est-ce que ça va réparer le fil? Non, ça réparera pas le fil. Seulement, qu'est-ce que ça va faire? Non, il y a des choses qu'on peut jamais réparer.
Trop tard.
Non, d'accord, okay. Wifi. Mais c'est chaud alors l'histoire.
Il y a des choses qu'on pourra jamais réparer. On pourra réparer peut-être comment? Quand Rambam il dit, quand on sera par exemple une personne, je donne l'exemple du Rambam, une personne qui a fauté avec une femme. Il est parti avec une femme interdite. Alors comment il peut faire teshuvah? C'est quoi la teshuvah? La teshuvah, hein, alors encore une fois, vous allez me dire, oui mais la teshuvah c'est une décision qui décide de ne plus recommencer. Oui c'est ça la teshuvah. Mais il veut réparer le fil. Comment il répare le fil?
Faut qu'il meure.
Non, pas du tout. C'est très simple. Il faut que dire un bam. Il va pas chercher. Mais un jour, Akadosh Baruch Hu le ramènera devant la même scène. Peut-être pas la même femme. D'accord? Mais une autre femme, aussi belle, avec les mêmes conditions. D'accord? Ça veut dire même condition. Qu'il se fasse pas attraper par sa femme, etc. Les mêmes conditions. Il a la même force. Faut qu'il ait la même force. Qu'il ait la même force. Et que, au moment où la dernière fois il avait craqué, cette fois-ci il craque pas.
Mais qu'à goûter une fois.
Et là il répare le fil. Mais encore une fois, c'est pas ça la teshuvah.
Je vais essayer, je vais voir si. Mais c'est pas.
Attends, le pour ça, c'est dire à Pessard, tu mets des petites baguettes, tu les manges pas.
Bien chaude.
Mais encore une fois, c'est pas ça la teshuvah. C'est pas ça la teshuvah. La teshuvah, c'était l'instant où après la faute, il a décidé, je recommencerai plus. Sincèrement. À cet instant-là, il a appelé Baal Teshuvah, ça dit Gamour. Mais le fil est coupé.
Moi, j'ai vu dans le Tania qu'il fallait mourir à un moment donné pour justement réparer les fautes qu'on peut pas.
La verrote sur le Kanechaev Karet, ça.
Oui, c'est que Karet.
Que la verrote sur le Kanechaev Karet. On avait dans la semaine dernière, au début du Père Karet.
T'es pas au courant, t'es pas Karet.
La verrote sur le Kanechaev Karet, il faut la mort.
Heureusement.
Ou les souffrances.
C'est pratiquement inévitable.
Les souffrances, ça veut dire quoi, les souffrances?
Les souffrances, pour la verrote sur le Kanechaev Karet, à l'époque, c'était soit la mort, soit les souffrances. Mais, comme on a expliqué, donc je veux qu'on comprenne bien. Je suis pas en train de dire que pour faire teshuvah, il faut que je me représente devant la même scène. Non, chas v'shalom, je suis pas en train de dire ça, parce que des fois ça n'arrivera pas. Je suis simplement en train d'expliquer que quoi? Que la teshuvah, je peux l'obtenir en un instant. Une personne, il a fauté avec une femme. D'accord? Il sort, il dit, je recommencerai plus jamais. Vraiment, il est sincère, il regrette grave.
Jusqu'à la prochaine.
D'accord? Sa femme l'a pas grillé, il s'est rien passé, mais il regrette grave. D'accord? Il regrette grave. Et Bémet, il va décider de pas recommencer.
En tout cas, pas avec celle-là.
Alors, imaginez celui-là. Il décide de plus recommencer. Et Bémet, il va plus recommencer. Baruch Hashem, il a fait teshuvah, Baal teshuvah. Est-ce qu'il a réparé le fil qu'il a coupé? Non, il l'a pas réparé. Le fil qu'il a réparé, il faut attendre que la même scène se représente, et quand il va pas refauter, parce qu'on a expliqué tout à l'heure comment on accomplit une mitzvah négative, quand la scène se présente et on le fait pas. Comment j'accomplis la mitzvah négative de pas travailler le Shabbat, quand l'occasion de travailler le Shabbat se présente et je travaille pas. D'accord? Donc la même chose. Il avait l'occasion de fauter avec le même type de femme, etc., même commodité, même facilité, etc., et il le fait pas. Là, on nous dit, tu viens de faire un nœud sur le fil, t'as réparé le fil.
Je donne un exemple. Quelqu'un, il décide de faire Shabbat un jour.
Oui.
Il fait Shabbat.
Oui.
Pour une raison ou pour une autre, il tourne. Il tourne vinaigre.
Il a craqué,
il arrête Shabbat.
D'accord.
Quelques années après, rebelote.
Il fait teshuvah?
Je sais pas s'il fait teshuvah ou il fait pas teshuvah, il refait Shabbat.
Donc il décide de faire teshuvah.
Bon, dans les faits, il décide de faire.
Ça s'appelle teshuvah.
Bon, d'accord. Il refait
donc,
Shabbat.
Dès cet instant-là, Kadosh Baruch Hu lui parle plus du passé.
Non, mais le fil, c'est pas le passé, c'est le fil que je te parle.
Eh ben, le fil, à Kadosh Baruch Hu, il lui mettra une fois une grosse affaire qu'il devra faire un Shabbat.
D'accord.
Derba, comme ça. Et là, il aura son yitzhara qui va le travailler. Et il aura le même choix que la dernière fois. Je dis oui, je dis non.
Faut pas qu'il plonge.
S'il va dire oui, malheureusement, il va replonger. S'il va dire non, Dieu dit bravo, tu viens de réparer la verra la dernière fois. Tu as réparé le fil.
Tu fais le fil. Le fil est...
Maintenant, je vais vous embêter un peu. Le fil peut être coupé à plusieurs endroits. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais, non, mais bon, on va s'arrêter à une coubion pour l'instant. C'est déjà pas mal.
Voilà. Non, il y a plusieurs.
Si
la France passe plusieurs arbitres,
ils peuvent être coupés.
J'ai compris. Je peux le couper à plusieurs endroits. Comment tu fais? Je l'ai coupé. J'ai fait plusieurs fois.
Il y a des petites découpes.
Oui. Bah oui, la suspension.
Non, mais
après je fais du rafistolage.
Petite découpe. T'as pas coupé entièrement.
Des entailles.
Des entailles.
Après, il faut réparer, faire des nœuds. On a des nœuds partout. Ouais. Mais un fil sur lequel il y a des nœuds, c'est un fil qui est extrêmement solide.
Je vais vérifier mes fils.
Il bouge pas.
On rentre à la maison.
D'accord. Donc voilà, avec ça, on a eu pas mal d'images sur la teshuva. L'image que la teshuva peut se faire en un instant, mais que pour parfaire la teshuva, pour réparer le fil, pour nous permettre justement de récupérer cette connexion, comme on a dit, nous avons été insufflés, donc Dieu attend beaucoup plus de nous pour récupérer cette connexion. Alors dans ce cas-là, il faut réparer le fil. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on a expliqué. Comment on répare le fil? Alors, on répare par le jeûne. Aujourd'hui, il n'y a plus le jeûne. On va réparer ça par la tzedaka, par à l'époque du Batamida, c'était les corbanotes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut donner un maximum de tzedaka. Pas du tout, parce que la raison pour laquelle on jeûne à Kippour, c'est pas pour faire teshuva. La raison pour laquelle on jeûne à Kippour, c'est parce que si une personne mange bien, et que c'est que son âme animale qui s'exprime, j'ai pas envie de faire teshuva. Je sens pas de manque. Dans le corps, c'est soit l'âme divine qui s'exprime, soit l'âme animale qui s'exprime.
Pas jamais les deux en même temps.
Mais non, c'est rarement, c'est toujours un qui est plus fort que l'autre. Tu comprends que quand tu manges pas, tu n'as pas mangé, plus on avance dans Kippour, plus j'envoie un message au corps, je lui dis tu n'as pas ce que tu veux. Donc plus tu envoies ce message au corps et plus le corps se calme. C'est-à-dire il comprend qu'il a pas ce qu'il veut et automatiquement la neshama s'exprime plus. C'est pour ça que plus on avance dans Kippour, et plus on sent que la neshama s'exprime. C'est fait exprès. Mais c'est un moyen, c'est pas un but. Le but de Kippour, c'est la teshuva.
Donc on a appris que ce Shabbat Tshuva, là, on a appris ce Shabbat Tshuva, que celui qui a fait Shabbat Tshuva, il a réparé les 52 Shabbats.
Alors Rizal, il dit ça. Attention, il faut voir. Rizal. Chaque jour de la semaine. Oui, il dit pas chaque jour, oui, chaque jour de la semaine. D'accord? Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon. Alors, en tout cas, comme je conclurai, on a dépassé un peu l'horaire, mais bon, c'est pas très grave. Rabotaï. Je conclurai juste sur une dernière idée, quand même une dernière petite idée, que je répète chaque année, avant Yom Kippour, que on peut être un juif de Kippour et avoir tout compris à Kippour, et on peut être quelqu'un qui a fait les slichot pendant 40 jours et avoir rien compris à Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, on a expliqué le but de la teshuvah, c'est quoi? C'est la décision que je vais changer mon derrière, je vais changer mon chemin, je vais devenir quelqu'un de nouveau. C'est une décision qu'on doit avoir. On peut faire les slichot, tout ce que vous voulez, dire toutes les prières, venir à toutes les prières, ne pas rater un shacharit, un mincha et un arvit. Mais si à un instant, on n'a pas pris à un instant, il n'y a pas eu un déclic dans la tête dans lequel je me suis dit, il faut que je change, je suis passé à côté des Yamim Noraim, je suis passé à côté de Kippour. Alors que d'un autre côté, ce juif de Kippour, peut-être qu'il est passé à côté de la plaque, mais quand il va venir pour la Neila, il y a sa neshama qui va lui dire, il faut que je change. Et ben, à ce moment-là, il a fait teshuva.
Mais il faut changer, pas dire, je vais changer.
J'ai compris. Mais s'il se le dit sincèrement, il faut que je change, je vais changer, et qu'il décide de changer, oui, sincèrement, et ben, à ce moment-là, il a appelé Tzadik Gamour. Peut-être qu'il va revenir après.
Il a déjà changé.
Peut-être qu'il va en boîte, ça
non.
Après.
Celui qui va faire les trois prières.
Pas du tout.
Il a déjà changé.
Il a pas déjà changé, il a encore des avérotes. Sur quoi faire des choix.
Il a déjà changé par rapport à ce que je vais changer.
Des fois, je le dis souvent, ça. Des fois, malheureusement, on se perd. On se perd dans le rituel et dans la liturgie, et on oublie pourquoi on est là. Vous comprenez ce que je veux dire? On se perd dans la liturgie. On est en train de chanter, Chatanu l'fanera, Chamalenu. On oublie. Quand on dit Chatanu l'fanera, Chamalenu, par exemple, c'est quoi le sens? Chatanu l'fanera. D'accord, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous avons fauté devant toi, aie pitié de nous. Vous voyez, en français, tout de suite, ça, on dit, attends, nous avons fauté devant toi, aie pitié de nous. Tout de suite, c'est une autre consonance.
T'as pas envie de le dire en chantant.
T'as pas envie de le dire en chantant, hein.
Et nous, le plus en français,
nous avons fauté.
Ils sont fous, ces juifs. Ils chantent qu'ils ont fauté devant toi.
D'accord. Donc, encore une fois, j'insiste beaucoup qu'il faut essayer de faire en sorte que dans les tefilot de Yom Kippour qui vont arriver, même avant Yom Kippour, il faut qu'à un instant, au moins, on décide, on se dit, je vais changer, je recommencerai plus, et dorénavant, je vais me comporter comme il faut pour m'avancer vers Akadosh Baruch Hu. C'est très très important. Ça, c'est le Icar, c'est l'essentiel de Yom Kippour. Tout est mis en œuvre pour arriver à cet instant. Voilà. On s'arrête là, et qu'on ait tous une Shana Tova Umtuka, qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie. Chaim Chaim.